Et bonjour à tous, bienvenue sur le mug Nowtech, c'est le mug du vendredi, le mug full gravier, hein. Ça fait pas vraiment la différence avec les autres. On va parler de plein de choses aujourd'hui, quelques nouveaux articles, mais on va surtout revenir sur le récap de la semaine, puis je vais prendre vos questions, puis on va discuter gaiement. Nous sommes le vendredi 10 mai 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien? Je suis désolé, il faut que je travaille en même temps, parce que je pense qu'avec les emojis que j'ai mis dans le titre, le bot a bugué, et du coup, il n'y a rien eu sur X, Twitter, donc je suis obligé de faire le post manuellement, à l'ancienne, hop hop hop, je copie ça, je vais sur X, hein. Une émission de professionnel, hein. Vous voyez, toute l'équipe est au travail, hein, pour que tout soit absolument parfait. Non, je suis pas avec le bon compte. Sa mère, non, on n'a pas de compte sa mère. Hop, je publie, je mets la petite photo. J'ai remarqué d'ailleurs ce matin, je sais pas, il va falloir que je regarde. Je fais toujours une photo de couverture, hein. Pour faire un post, voilà, la photo de couverture que vous connaissez bien. Et généralement, je lui appuie qu'un réglage automatique, enfin amélioration automatique. Waouh, il m'a fait bronzer et tout. J'ai l'impression que là, avec la, parce que j'ai eu la dernière mise à jour sur mon iPhone, j'ai l'impression que Apple, là, au niveau retouche, ça force un peu. À voir. Je confirmerai, parce qu'on n'est jamais à l'abri de... sur une image, je peux pas en tirer une conclusion, mais quand même, je suis bien bronzé là. Live à 8h, dadada, posté, hop, mon autre compte, j'arrive, yep, reposté. C'est bon, c'est sorti. Salut à tous, comment vous allez bien? Le mug Tokyo Drift, exactement. On va drifter à mort dans les graviers, comme d'habitude. J'ai vu quelqu'un ce matin qui demandait s'il y avait les dates d'absence pour les vacances de cet été. Écoute, j'ai pas encore décidé. On va rentrer, le mug reprendra le 24 juin. Il est plus que probable qu'on s'échappe un peu de Paris pendant les Jeux Olympiques, mais ça empêchera peut-être pas de faire le mug de Bretagne. Faudra peut-être quand même qu'on fasse... Bon, là, on prend 15 jours de vacances quand même, donc c'est des vacances. On aura peut-être besoin de plus de vacances, pas tellement pour se reposer, mais parce qu'on a des petits travaux à finir, enfin, surtout de la déco en Bretagne cet été. Je vous tiendrai au courant. S'il y a des pauses cet été, rassurez-vous. Voilà, ce sera pas. Je pense pas qu'on va faire. On va pas enchaîner avec une grosse coupure d'été. Peut-être qu'on fera une petite coupure avant la reprise de la rentrée en septembre. Mais je vous tiendrai au courant. Je pense qu'on sera là en juin. Je pense qu'on sera là en juillet. Voilà. Pour vous tenir un petit peu au courant. Le mug de Bretagne, c'est une arnaque, juste un mug classique avec une bigoudaine dessinée, il faut 15 euros. Non, c'est le mug de Bretagne, c'est un mug où je mange du beurre. Je bois du beurre, un mug de beurre, un mug de beurre chaud. Même les Bretons, ils osent pas faire ça, un mug de beurre chaud. Oh, ça doit pas être bon quand même. J'aime le beurre, mais waouh. Un mug de beurre chaud, ça c'est un vrai challenge, ça. Que, à ne pas faire, chez vous. Alors oui, Samuel me le répète, me le rappelle, mais ça va coller aussi avec une news, Samuel. En fait, le mug d'hier n'est pas disponible sur YouTube, pas en replay. En fait, Apple l'a bloqué parce que j'ai diffusé l'intégralité de la pub. Ce qui m'a surpris, parce que généralement, Apple ne bloque pas ses propres pubs sur YouTube. J'avais déjà diffusé des pubs Apple, ça bloque pas les vidéos, et la preuve en est, c'est qu'on a sorti une vidéo sur YouTube hier avec des extraits d'une vieille pub Apple, et pour l'instant, j'ai pas été bloqué. Il y a un risque qu'ils démonétisent. Apple, généralement, démonétise les vidéos où on prend des extraits de leur keynote, parce que souvent, il y a des droits qui ne leur appartiennent pas forcément. Bon, j'expliquerai. Mais là, je suis surpris. Apple a bloqué cette pub. Ce qui nous fait dire, vu si vous étiez là en live hier, si on a diffusé cette pub, c'est pour parler d'un bad buzz qu'il y avait autour de cette pub pour l'iPad, où ils détruisent des instruments de musique, des pots de peinture et tout ça, pour faire dans une grande presse industrielle, et in fine, il y a un iPad qui sort. En gros, c'était la métaphore de la pub. Ce qui a beaucoup déplu à pas mal d'artistes, qui ont vu une espèce de métaphore de l'intelligence artificielle et de la Silicon Valley, qui essaye d'écraser finalement les artistes pour les intégrer dans des puces et des serveurs et des intelligences artificielles génératives. Donc, bad buzz, Apple s'est excusé, je retraiterai l'info tout à l'heure, Apple s'est excusé de cette pub et elle a été retirée, enfin, tous les espaces publicitaires qu'ils avaient achetés à la télé ont été annulés. Donc, ça me surprendrait pas que Apple essaye de faire oublier très vite cette pub et du coup qu'il l'ait bloqué sur YouTube aussi. Alors, je spécule, hein, et c'est un peu genre, mais je vous le dis, je suis quand même surpris que Apple ait bloqué cette pub. Ils ne le font pas d'habitude. Voilà pourquoi vous aurez pas le replay d'hier, ni d'ailleurs en podcast audio. Je suis désolé. Nous, c'est trop de boulot d'essayer d'éditer le replay pour enlever la pub. Ça risque de faire une coupure super bizarre en plus. Donc bon, bah tant pis. Il fallait écouter en live, les gars. Voilà. Ils vont loin dans l'interprétation. On a eu le débat hier. Certains d'entre vous comprenaient pas que les artistes soient aussi effarouchés par une pub comme ça. Moi, je comprends. Je comprends. Alors, c'est ce que j'ai dit hier. Moi, j'ai d'abord été choqué par le gâchis de matériel. Péter des trucs tout neufs pour une pub avec une marque qui se targue d'être la plus écolo des marques tech. Je sais pas. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé cette pub. Mais j'y avais pas vu la métaphore pour les qui ont vu les artistes. Donc, je comprends que vous disiez, ouais, ils ont peut-être vu un petit peu loin. Maintenant, je comprends le point de vue de certains artistes aussi. Voilà. Le replay Twitch, oui, si vous voulez vraiment voir le replay d'hier, je le dis pour ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube et en... Allez sur Twitch, hein, il est disponible. Il est disponible, il est disponible. Oui, oui, Apple a... Mais je vais la faire, la news, que Apple a présenté ses excuses pour cette pub. T'as pensé que c'était de la 3D? En vrai, peut-être c'est de la 3D. C'est peut-être moi qui me suis effarouché, mais... En même temps, ça aurait coûté très cher à faire ça en 3D. Hein. Plus facile de péter un vrai piano. En parlant de mugs, est-ce que les mugs Nowtech sont toujours dispo à la vente? Oui, toujours dispo à la vente. Faut vite coller un NFT dessus. Oleg old school. Oleg collectionneur de NFT quand plus personne n'en veut. Merci d'en faire voyage au Japon. Pas encore, mais oui, je décolle dimanche. Karina et Marion, elles partent jeudi prochain pour me rejoindre. Ah mais oui, je sais que Oleg, bah, t'as des t-shirts NFT. De toute façon, t'es un crypto bro à fond sur les NFT, Oleg. On le sait tous. On le sait tous. T'as juste bien caché ton jeu pour spéculer de ton côté sans qu'on en profite. C'est ça. Ah. La 3D moins chère, pas sûr, vu qu'ils détiennent une part de l'ogre Disney. On va quand même matérialiser. Parce que non seulement il faut matérialiser les objets de la pub, mais en plus, toutes les particules de la destruction particules de destruction. Ça ferait pas un bon groupe de métal, ça? Vous les sentez, là, les graviers? Full gravier, là? Jardin japonais? Non, mais en vrai, particules de destruction. Voilà, hein, groupe de métal de l'Indre-et-Loire. Ouais, c'est nous, particules de destruction. Non, alors, on va clore le débat parce que je sens que vous brûlez de faire des blagues dessus. Je prends un Boeing. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Priez pour moi. Voilà, comme ça, c'est fait. Particules de gravier. Ouais, ça sonne moins bien. Les graviers de la destruction. Gravier, Dooms gravier. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, hein, c'est pas tout ça. On va avoir le temps de faire plein de graviers, mais je veux quand même essayer de faire un mug. Je veux quand même essayer de faire un mug. C'est mon droit. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous m'avez déconcentré, là. Oui, bah on va regarder. On va faire un petit récap de la semaine, quand même, au niveau tech. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on a parlé avec Marion cette semaine? Marion vous a parlé de la publicité qui rapporte des sommes délirantes aux plateformes de streaming. On a tous gueulé quand les Netflix, les canals mettent des pubs alors qu'on paye déjà l'abonnement. Et c'est ce qui arrive sur Amazon Prime. Et ben en fait, la pub rapporte énormément. Et donc, c'est pas prêt de s'arrêter, cette tendance-là. En fait, je pense que chaque plateforme de VOD va essayer de pousser le curseur. En gros, l'idée... Allez, si on met un peu de pub, il y a combien de désabonnements? Ouais, je pense vraiment que ça va se passer comme ça dans le futur. Ils vont essayer de mettre un peu de pub, pas trop intrusive, hein, genre le petit truc au début, aura une micro-interruption au milieu, moins que la télé quand même, parce que bon, c'est pas la télé, faut pas déconner. Et en même temps, ils vont regarder le curseur des désabonnements. Et dès que ça commence à désabonner un peu fort, ils vont arrêter de rajouter de la pub. En gros, ça va être vraiment ça. Donc, je vous le dis, Si vous voulez pas de cette pub sur les abonnements payants, désabonnez-vous. C'est la seule manière de leur dire hey, stop, 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 stop. Non, en vrai, le truc, c'est que ce qui est très délicat dans cette histoire, c'est que en fait, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'il y a beaucoup de secrets là-dedans. Une plateforme de VOD ne va pas communiquer sur ses résultats publicitaires parce que ça donnerait ses prix en fait à la concurrence. Mais ce qui pourrait nous arriver de catastrophique, c'est que la pub rapporte plus que les abonnements. Ce que je veux dire, c'est qu'un visionneur avec des pubs leur rapporte plus d'argent qu'un abonnement payant. Et là, du coup, ils vont aller full pub, quoi. Une tempête solaire de classe X frappe la Terre, la France impactée, les experts donnent l'alerte. Prévu le 11... Pense à ta crème solaire. Non, mais t'inquiète pas, Arakarissu. En fait, vu que la Terre est plate, je me mettrai dessous. Comme ça, les... comme je vais de l'autre côté, je suis dessous, en fait, de la Terre plate. Donc, je ne vais pas être touché, moi, par la tempête solaire. Bon, de toute façon, j'ai prévu les crèmes solaires. Donc, je suis bon. Eh, il y en a là-dedans, hein. Elle a la même forme que le bouclier de Captain America, bien vu. Fais gaffe aux reptiliens qui sont dessous la Terre. Non, mais ils vont disparaître comme ils ont le sang froid et que ça va chauffer. Plus de reptiliens. Alors, en vrai, Amazon Prime, bah, j'ai regardé des trucs récemment. Pour l'instant, le niveau publicitaire, ça va, ça m'énerve. Moi, honnêtement, ça m'énerve vraiment. Je suis déjà énervé contre Canal+, qui me rajoute des micro-pubs alors que je suis abonné. En fait, moi, c'est vraiment une question de principe. Si je paye, j'ai vraiment pas envie d'avoir des pubs. Donc, j'avoue que ça m'agace. Après, pour être honnête, Amazon Prime, je le prends pas pour les vidéos Amazon. Amazon Prime, je l'ai surtout pour les livraisons. Mais ça m'a pas donné envie de payer le supplément pour enlever les pubs. Voilà. Mais je vois bien le danger. Je commence à m'habituer. Donc, voilà. C'est une poignée de gravier de plus qu'on nous fait passer de force là où il ne faudrait pas que ça passe. Et on commence à l'accepter. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Comment faire pour que les gens souscrivent à des services IPTV ? En vrai, tu vois, tous ces trucs, tout le monde se remet au piratage et tout. Nous, dans la sphère tech, bien évidemment, je pense que la sphère tech, les technophiles, il y aura peut-être beaucoup de désabonnements, des gens qui vont se remettre au piratage ou à l'IPTV. Ce qui importe surtout à Netflix, Canal et tous les autres, c'est le grand public. Et je te garantis, le grand public, c'est pas vraiment remis au piratage. Piratage, maintenant, il faut se lever de bonne heure quand même. Je sais, c'est pas si compliqué que ça pour nous, les technophiles, mais pour le grand public. Et l'IPTV, c'est... Alors, je pense que ça les inquiète le plus, parce que c'est relativement facile d'accès. Faut voir, on verra. On verra, on verra. On continue. Spotify enlève l'option karaoké. Marion vous a fait un petit sondage, pas grand monde d'entre vous, ça vous a pas vraiment... qui utilise l'option karaoké chez Spotify. À part moi, qui suis un grand fan du karaoké, bien sûr, je déteste le karaoké. Je hais le karaoké. Même avec 3 bouteilles de saké dans les veines, je ne chanterai pas au karaoké. Voilà, ça c'est fait. Hein. N'espérez. Vous avez plus de chances de me voir danser devant un temple japonais déguisé en samouraï que de me voir chanter dans un karaoké. Alors là, tout le monde est là. Ah ouais, défi. Non, jamais vous me verrez danser devant un temple japonais déguisé en samouraï. L'irrespect est total. Le respect est dead. Non, je n'ai absolument pas de challenge accepted quoi que ce soit. Non, j'ai dit même avec 3 bouteilles de saké, non. Après, le whisky japonais, ça se discute. Ça se discute. Hein. consommer alcool, modération et niette. Hein. Tout ceci est une métaphore. Métaphore. Non, je n'ai accepté rien du tout. Là, vous êtes juste en train de fantasmer. Hein. L'alcool, c'est que pour la modération. Soirée karaoké avec les contributeurs. Mais genre, hors de question. Hors de question. Je veux bien faire un non-scène avec la communauté. Au moins, ça sera une vraie mise à nu que de faire un karaoké. Ah, là, vous la ramenez moins. Hein. Qu'on se fasse un non-scène collectif, là, tous à poil. Ah, là, vous faites moins les fiers. Hein. Et là, il y en a qui va me dire, ouais, mais on peut faire du karaoké dans l'on-scène aussi. Chiche, quel excellent moyen de faire le bad buzz sur les réseaux sociaux. Naotech invite sa communauté dans un onsen, tout le monde mis à nu. La raclette suisse si tu fais un karaoké contre Yves. Non, vous ne mourrez pas avec une raclette. La raclette dans l'onsen, par contre, moi, je dis, il y a de l'idée. Onsen, c'est les bains chauds japonais qui peuvent être publics ou privés. Mais là, je pensais effectivement à un onsen public. C'est les bains chauds, les bains thermaux, en fait. Je vous dis pas le bad buzz. Ça serait partir avec un certain éclat. C'est vrai. Nao à poil. Soirée Nao à poil. Voilà. Et bien sûr, ça serait non-genré, hein, donc ça serait mixte. Hein, let's go. Hein. Là, je vous faites les malins, mais vous feriez moins les malins. Moi, je m'en fous, j'ai aucune pudeur, mais... Non, je m'en foutrais pas du tout. Smartphone interdit hein, pendant la soirée. Now naked. Le panache 2024. Oh putain. Oh là là, le potentiel comique. On continue dans le genre potentiel comique. Nintendo continue sa croisade contre l'émulation Switch. Il a fait tomber 850 copies à travers le web des émulateurs, en fait, notamment avec Switch Yuzu, qui est l'émulateur bien connu. Donc, Nintendo flippe. Moi, ce que j'avais dit dans un format court, il flippe d'autant plus que Apple, ayant assoupli ses règles sur les émulateurs... Bah, les émulateurs Nintendo cartonnent sur l'App Store en ce moment. Et ça fait bien flipper Nintendo. Après, je sais plus si Marion a abordé le sujet. Il y a quand même une chose à prendre en compte avec ces histoires d'émulateurs. C'est leur fonction, entre guillemets, historique. Et c'est pas que du pipeau pour cacher le piratage, ça. Ça l'est un petit peu, mais c'est quand même, c'est vrai que le problème avec le jeu vidéo, on est tous d'accord pour dire les jeux vidéo sont aujourd'hui des pans culturels. Mario est aussi important que Mickey, et Mickey, c'est de la culture, au même titre qu'un Stendhal, un Chateaubriand ou quoi que ce soit. C'est une forme de littérature. Enfin, voilà, je pense qu'on ne conteste plus qu'une partie de la pop culture devient la culture avec un grand C, ok ? Et le problème, c'est que les éditeurs de jeux vidéo, quand ils abandonnent un jeu et qu'ils abandonnent les plateformes qui permettent de faire tourner ces jeux... on n'a plus de moyens de perpétuer ses œuvres. Parce que je considère très sérieusement que certains jeux vidéo sont des œuvres culturelles qu'on doit faire passer, qu'on doit rendre accessibles aux générations futures. Comment un gamin dans 50 ans comprendra quel phénomène a été Mario s'il ne peut pas, au moins pendant quelques minutes, jouer au premier Mario ou aux Mario les plus célèbres. C'est hyper important qu'on puisse extraire des mains du privé, donc de ces éditeurs de jeux vidéo, ces œuvres pour soit les faire tomber dans le domaine public ou en tout cas les rendre accessibles. Donc, et je rigole pas du tout en faisant ça. Je sais que certains d'entre vous considèrent pas que le jeu vidéo est une œuvre culturelle majeure. Moi, si. Et je pense que les historiens du futur, pour eux, ça sera très important. Attention, la geste de Berthe à travers les âges, c'est un monument de culture. Ouais, peut-être pas, là. N'exagérons pas. On n'aura plus d'électricité de toute façon. Un autre futur possible. Donc voilà, c'est aussi une fonction des émulateurs. Et quelque part, on pourrait inverser le problème Jérôme de Gauche. Bonjour. Le jeu vidéo est trop important pour qu'il soit à 100% dans le domaine du privé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le cas. Le jeu vidéo est à 100% dans le domaine privé. C'est des entreprises qui décident de la vie et de la mort des jeux vidéo, de l'abandon de tel ou tel hardware permettant de les faire tourner. Et le jeu vidéo en tant que phénomène culturel est trop important pour que ça soit 100% un truc du privé. Alors, est-ce qu'on devrait avoir le ministère de la Culture qui rachète des licences de jeux vidéo? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est important, au même titre que la conservation de la littérature, des films anciens et ce genre de choses. Voilà. Ben, c'est exactement ça, Oleg. Tu le dis peut-être comme une blague, mais les archéologues ne connaîtront pas Mario, car Nintendo aura interdit le portage du code à travers le temps et ne sauront pas le lire. C'est exactement ça le problème. Dans le futur, ils rigoleront bien de nous voir jouer à Duck Hunt. Je pense qu'ils rigoleront pas plus que nous quand on voit des jeux d'osselets de la Rome antique en se disant que les enfants romains jouaient à ça. Ou quand on voit un jeu de dames ou quoi que ce soit. Non, je pense que s'il reste des historiens, hein, je pense pas qu'ils auront un regard... je pense qu'ils auront peut-être un regard beaucoup plus dur sur certains de nos comportements actuels, mais... Bref. Également, Marion. Oh putain. Lui dites pas. Hein. Marion vous a parlé également d'IPTV. L'étau se resserre sur les pirates en France. Bah, on en parlait il y a pas longtemps. Voilà. Ça devient plus compliqué quand même pour l'IPTV. Je ne lirai pas ton commentaire, Oleg, mais il me fait rire. Elle a également parlé de la nouvelle série Star Wars de Acolyte, hein, en vous demandant si vous étiez un peu hypé. Donc, on a parlé de la licence Star Wars. Star Wars, moi, vous le savez, de toute façon, voilà, la Gen X, Star Wars, c'est un pilier culturel pour nous. C'est hyper important. Comment je ressens mon Star Wars en ce moment? Il y a eu quand même des ratés. Je le dis, effectivement, Boba Fett, à part 3 épisodes, c'était quand même assez catastrophique. Je suis moins dur que certains sur Obi-Wan, que j'ai pas détesté. Ahsoka, je suis partagé. Il y a des personnages que j'ai vraiment aimés, mais je peux pas dire que la série m'est adoré. Mandalorian, par contre, banger. Mandalorian m'a fait revenir à Star Wars. J'étais un peu comme beaucoup de gens de ma génération, quand même très déçu, un peu déçu par les films. Je ne retrouverai pas vraiment mon Star Wars et The Mando m'a ramené mon Star Wars d'enfance. C'était typiquement le genre de scénario que j'imaginais avec mes figurines Star Wars quand j'étais gamin, en fait. C'est ça qu'ils ont très bien compris avec Mando. Andor, pour moi, c'est presque pas du Star Wars. Mais c'est intéressant qu'il l'ait fait, justement. De sortir de la grammaire Star Wars classique, du piou-piou sabre laser, pour proposer... moi, je le dis, Andor, c'est une série... c'est une série sur le communisme dans l'espace, quoi. Ou en tout cas, l'intellectualisme de gauche au sein de l'Empire. Elle est hyper intéressante, cette série, Andor. Bad Batch, j'avoue que j'ai pas encore regardé. Je suis quand même moins... Même si j'ai aimé un certain dessin animé et j'ai regardé, je suis un peu moins quand même dessin animé Star Wars. Andor, on dort dans cette série. Ouais, mais c'est presque ce qui en fait son charme. C'est vraiment une série extrêmement cérébrale, Andor. Essayez de persévérer. Moi, je vous l'avoue, il m'a fallu de la persévérance. Il ne faut pas la regarder le soir en s'endormant, parce que sinon, vous allez vous endormir. Mais c'est une série intéressante. Hein. Prends Bad Batch pour ton voyage, tu ne seras pas déçu. Bon conseil. Ok, merci, Grolb. Après, je suis aussi conscient que Star Wars doit se réinventer. Star Wars est important pour ma génération. moins déjà pour la génération suivante et encore moins pour les deux nouvelles générations en ce moment. Donc il va falloir renouveler si on veut que la licence perdure. Je pense qu'ils sont quand même moins... Les Gen Z et les Gen Alpha, là, les deux nouvelles générations, c'est beaucoup moins leur culture. Déjà, Harry Potter, pour eux, c'est vieux. Star Wars, c'est encore plus vieux, quoi. Donc, il va falloir réinventer. Est-ce que, du coup, je suis intéressé. Moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est que Star Wars se détende un peu du slip. Star Wars n'est pas une religion. Bien sûr, de temps en temps, j'ai envie d'injection de nostalgie. Mais j'ai envie de voir des nouvelles choses dans l'univers de Star Wars. Star Wars est un univers riche qui peut être réactualisé. Un peu comme Star Trek, qui s'est modernisé petit à petit. Enfin, les Star Trek des années 60 et l'univers Star Trek maintenant, c'est pas la même chose. Il faut. Ouais, je sais que ça fait mal aux millennials, mais je vous garantis aujourd'hui, pour un jeune alpha, Harry Potter, c'est un truc de vieux. Hein. Oui, c'est un truc de vieux, Harry Potter, pour les plus jeunes. Ils comprennent pas la hype autour de Harry Potter. Hein. Ça vous fait peut-être mal d'entendre ça, mais c'est vrai. Et imaginez pour moi, c'est encore pire. les gamins qui ont grandi avec Harry Potter, vous avez plus de 30 ans hein, maintenant. Hein. Je dis pas que vous êtes vieux. Je dis juste que pour quelqu'un qui a aujourd'hui 15 ans, 30 ans, c'est vieux. Vous êtes toujours le vieux de quelqu'un. Hein. Ne l'oubliez pas. Ah oui, pour cette génération, Star Wars, il n'y a qu'à discuter avec des papas et des mamans. Hein. Quand ils font découvrir les premiers Star Wars de 1974, c'est ça, hein, le premier Star Wars. Enfin, le premier qui a été tourné, c'est presque montré un film muet. Mais en vrai, c'est quasiment l'écart entre le cinéma muet... Non, j'exagère peut-être un peu, je suis nul en chronologie, mais c'est vraiment comme si vous montriez un très vieux film. C'est comme si on regarde un film en noir et blanc, quoi. C'est 78, le premier Star Wars. Pourquoi j'ai dit 74? Oui, c'est 78. Nous ne sommes pas vieux, nous ne sommes plus jeunes, nuance. C'est une nuance subtile, tu vas voir. 77, ouais. Dans 3 ans, on fêtera les 50 ans de Star Wars. Donc, prenez ce qui existait comme film dans les années 70, on enlève 50, ça nous amène... dans les années 20. Les films des années 20. Donc, si vous montrez aujourd'hui le premier Star Wars à un gamin, c'est comme quand vous, gamin, on vous montrait un film des années 20. Ah ouais, ça, c'est le genre de truc, ça fait... ça fait mal. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Charlie Chaplin, quoi. Non, mais oui, c'est Charlie Chaplin. C'est un charlot, quoi. Ça fait un frisson dans les chines. Hein. ça fait bien. Quand tu commences à te dire que les trucs... Enfin, ce que nous, on voyait archi vieux. Genre, moi, la Deuxième Guerre mondiale... C'était dans un passé lointain quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a plus d'écart. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les sauts en arrière, parfois, ça fait mal. Les premiers charlots, ça marche toujours avec les gamins, alors que les premiers Star Wars. Ouais. L'avantage, c'est qu'ils sont libres de droit, les films des années 50. Quand tu te dis qu'il restera plus que 20 ans à Star Wars avant de tomber dans le domaine public, après, Demain, tu auras la troisième guerre mondiale et tu trouveras... et tu trouveras que la première a mal vieilli. Pas réaliste, hein, la première guerre mondiale. Les gamins, faut commencer avec le premier alien, ça leur apprendra le respect. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, bref, on va pas... Mais bien, The Acolyte, je suis hypé, ça arrive en juin, donc ça, c'est cool. On a fait le récap hier des annonces iPad. Si vous voulez, tout à l'heure, on reparlera des iPad. Je ne vais pas vous refaire les annonces hein, autour des iPad, mais vous avez peut-être des questions. On a sorti hier une vidéo sur la chaîne YouTube. Je suis allé un peu plus loin qu'un récap, quand même, on peut le dire. Je me pose vraiment des questions sur le futur de l'iPad. Comment Apple va faire évoluer l'iPad dans le futur. Donc, si vous l'avez raté, c'est une vidéo qui est sortie hier à 17h. Si vous avez envie, je vous invite à la regarder. Article sur lequel on va peut-être revenir tout à l'heure. C'était l'article qu'on devait faire hier, qu'on va se laisser en... c'est justement l'interdiction des écrans pour les enfants avec un article d'Emmanuel Freund qu'on connaît bien puisque c'est un des fondateurs de Shadow qui maintenant est cofondateur de la startup PowerZ qui fait un MMO éducatif pour les enfants et qui répond justement à ces décisions et ces discussions politiques autour de l'interdiction des écrans pour les enfants. Et il parle d'une hypocrisie du discours. Donc ça peut être un débat intéressant. On va voir si vous êtes chaud tout à l'heure. On a montré effectivement hier la différence avec le verre nano texturé. On prendra des questions sur les iPads s'il y en a. On a parlé de la sortie également du Google Pixel 8a. Appareil très intéressant. Avec effectivement la puissance processeur d'un Pixel 8 et le combo photo. En tout cas, une partie des appareils photo du Pixel 7a a un prix assez compétitif, avec notamment des super offres de reprise de votre ancien smartphone. Ça vaut le coup de creuser. Il a l'air pas mal du tout, ce Pixel 8a. Une news que j'ai complètement ratée hier, je devais vous la faire. Bon, après, je ne sais pas si elle est intéressante. Jack Dorsey a quitté la direction du réseau social décentralisé Blue Sky. Vous vous souvenez de Blue Sky et de Guillaume qui voulait absolument que tout le monde aille sur Blue Sky. même Jack Dorsey quitte Blue Sky. Je sais pas. Hein. Je mettrai pas un carambar là-dessus, hein, comme on disait à mon époque. C'est très bien, Blue Sky, c'est chill. C'est la chambre des échos, non, Blue Sky? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sa place. Hein. Je pense qu'il y aura des amateurs de réseaux sociaux minimalistes avec très peu de monde. Tu parles plus jamais de Shadow, tu es moins fan. Alors, en vrai, j'utilise beaucoup moins Shadow. Ça, c'est vrai, parce que maintenant, j'ai un PC physique qui tient la route. En vrai, il n'y a pas tant d'actualité que ça sur Shadow. Donc, c'est pour ça que j'en parle moins. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'actualité, ouais. Il reste peu de crédibilité à Dorsey. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Je ne sais pas où en est Square. Square qui était son gros projet. Après, j'avoue qu'en réseau, il ne me reste que Instagram. Et ça y est, c'est vraiment une giga poubelle. Donc bon. Oh. Pourtant, hein, je suis en décontamination de réseaux sociaux. J'y vais de moins en moins. Je trouve Insta, ça va encore. Mais Insta, j'avoue que je regarde pas tant que ça, en fait, Insta. Blue Sky, on parle bien de la marque d'électroménager cheap en grande surface. Non, pas celle-là. Shadow versus GeForce Now. Ouais, mais on retombe sur le débat. Moi, par exemple, GeForce Now, ça ne me va pas. Regarde, en ce moment, je joue beaucoup à Warhammer, à Total War Warhammer 3 avec le nouveau DLC et avec des mods. Et désolé, il n'y a pas de mods sur... Donc, GeForce Now, technologiquement, c'est vachement bien, mais c'est que du gaming. Et il n'y a pas tous les mods. Moi, il me faut quand même un PC sur le cloud pour jouer, quoi. Et ça, pour l'instant, alors, il n'y a pas que Shadow, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, mais ouais. Donc, après, je comprends, certains ne jouent pas du tout avec des jeux modés, mais moi, je joue avec énormément des jeux modés, quoi. Ce serait drôle de comparer des images des réseaux au début, au lancement et maintenant. Intéressant, ça, comme idée, Fanny Schneider. Ça demanderait beaucoup de boulot, mais c'est intéressant. Déjà, moi, ça me fait rire parfois. Bah, vraiment, mais alors, ça m'arrive rarement que j'ai du temps. Mais ça vous est jamais arrivé de scroller pour arriver déjà à vos premières photos Instagram, mais les premières photos Instagram de certaines personnes. Et on voit l'évolution même personnelle qu'on a eue par rapport à Instagram. C'est drôle. Les premiers filtres, ah ouais, les premières. Moi, quand même, et je le garde parce que j'assume, mais ma première photo sur Instagram, c'est un paquet de clopes, j'ose le dire, un paquet de clopes avec une boîte de Philadelphia, un briquet et des biscuits Björk dégueulasses. Et j'avais pris cette photo en disant « Ouais, c'est bientôt un truc genre « Voilà mes munitions pour Upload ». À l'époque, on faisait un podcast qui s'appelait « Upload ». Et genre, Instagram, c'était trop bien. Je pouvais dire « Regardez tous les trucs que je vais snacker ». Et clopé, je le dis, à l'époque, je clopais en tournant le podcast. Voilà, ça, c'est ma première photo, quoi. Ça craint, hein. Choix du sujet, la compo, le cadrage, le titrage. Ah ouais, non, là, ouais. Ouais, les messages sur les murs Facebook. Bah, au début, on se forçait à dire des trucs, hein. C'est ça, en fait, moi, ce que je retiens de mes premiers Instagram, mes premiers Facebook. On se disait, oh putain, il faut que je dise des trucs, quoi, intéressants. Donc oui, on postait nos mugs de café dès qu'il y avait un peu de mousse dessus. Il y en a qui le font encore. Le moindre burger. Voilà, c'était... On essayait de rendre nos vies intéressantes. Il n'y avait pas encore vraiment le phénomène influenceur. Mais oui, on essayait de rendre nos vies intéressantes. Donc, et c'était pas très intéressant, pour être honnête. Pas très, très intéressant. Super journée à la plage avec les amis et tu les tags tous. Ouais. Moi, je vous l'avais déjà raconté, mais j'ai une anecdote. Ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur les réseaux sociaux à l'époque. C'était à l'époque Facebook, Instagram n'existait pas encore. Et justement, un pote avait posté des photos d'une soirée qu'on avait fait tous ensemble. Et il avait tagué tout le monde. Et le problème, c'est que sur une des photos, j'avais une copine qui faisait quelque chose derrière... Pas de sexuel, pas, voilà, mais un truc répréhensible, on va dire, qui était en arrière-plan d'une photo. On ne voyait pas énormément, mais suffisamment pour que ça soit répréhensible. Du coup, elle a paniqué, et je comprends. Le pote, il ne pensait pas à mal à cette époque-là. On taguait les gens, on ne réalisait pas ce qu'on était en train de faire. Bon, il a supprimé les tags et tout. Mais je sais qu'à ce moment-là, et moi, je ne faisais pas encore hein, tout le merdier que je fais aujourd'hui. Hein, je travaillais encore dans la pub à l'époque. J'ai commencé à me dire, attends, ah ouais, quand même, ça craint un peu, hein, là, les réseaux sociaux. Donc, ça a été... À cette époque-là, on postait un peu tout et n'importe quoi. Moi, c'est à cette époque-là que je me suis engueulé avec des couples d'amis qui postaient des photos de leurs gamins à poil sur la plage ou en petit slip de bain. J'aurais dit, vous savez que tout le monde peut voir la photo, là. Oh, ça va, les gens sont pas détraqués à ce point. Putain, j'aimerais bien lui en reparler aujourd'hui s'il aurait le même raisonnement, quoi. Le giga 3 feuilles au fond, oui, c'était de cet ordre-là. Voilà, si vous voulez absolument savoir. Si elle avait un gun, non. J'ai eu des soirées bizarres, mais pas à ce point-là, quand même. Bizarre est un voile pudique que je jette sur mon mois d'avant. Bref, qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Je ne sais plus comment on est arrivé de Jack Dorsey à parler des réseaux sociaux. On a parlé également hier du scandale FTX avec les victimes de la fraude crypto qui vont récupérer leur argent avec leur intérêt. Et on a célébré, parce qu'il faut célébrer ces héros qui ne sont jamais cités, nous avons célébré l'avocat qui s'appelle, un nom incroyable, un nom de super-héros. L'avocat, c'est John G. Ray III. John G. Ray III et son équipe ont fait un truc titanesque. Ils ont remonté tout l'échafaudage de l'arnaque FTX en raclant de l'argent là où ils pouvaient pour essayer de rembourser, en tout cas, les mises de départ des investisseurs. Alors, c'est sûr que les investisseurs n'ont pas touché les bénéfices de la croissance de la crypto qu'ils auraient dû toucher, mais au moins ils vont récupérer leur mise de départ et célébrons ces héros anonymes, ces sauveteurs de catastrophes, pompiers, avocats, experts comptables qui interviennent après des faillites, après des effondrements pour sauver les meubles. Voilà, on n'y pense jamais à ces gens-là. L'histoire retiendra probablement beaucoup plus l'arnaqueur, Sam Bankman-Fried, et ne retiendra peut-être pas le nom de John G. Ray III et de son équipe, mais nous, on le célèbre. Voilà. Mon Dieu, toutes mes premières photos Insta avaient des cadres blancs, ouais. Sauras-tu trouver l'article caché au milieu de la pub ? Oui, alors, effectivement, putain, oui. Oh, c'est violent. Là, mon adblocker ne marche pas. Normalement, j'ai un adblocker. Ah, attendez. Si ! Putain, il marche aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est pas que je sois forcément pro-adblocker, mais là, j'ai un raisonnement purement financier. On ne me paye pas pour vous montrer ces pubs-là. Philips, c'est qui les autres là ? Temu en plus. Et Vueling ne me paye pas pour montrer leurs pubs. Maintenant, vous me payez, je viens de vous citer. Donc, je ne devrais pas vous montrer les pubs. Mais ce n'est pas toujours techniquement possible. Ah non, mais je suis le premier à dire qu'il y a de l'abus. Hein. Il y a de l'abus. Et généralement, ce genre de sites, je ne vais pas les lire. Sauf si c'est le seul à avoir un article intéressant. Non, non, mais c'est clair. Hein. Expert comptable avant la faillite, c'est bien aussi. Oui, mais quand une boîte fait un mauvais produit ou qu'elle est mal managée ou qu'elle est sur un mauvais marché, l'expert comptable ne va pas sauver ta boîte non plus. Tu as juste une boîte qui n'est pas sur le bon marché. Mais moi je pense à l'expert comptable qui doit sauver les meubles derrière. J'en profite d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de l'émission et là j'entends le ting 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 de ACIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires. Un grand merci à toi, grand merci Vince79 pour ton 13e mois d'abonnement, merci Artragis pour ton 29e mois d'abonnement, merci CChris0X pour ton 46e mois d'abonnement, merci Tech Wills pour ton 27e mois d'abonnement, merci Titanium pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Feelgood49 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Denfer1966 pour ton 29e mois d'abonnement. Merci Bartou56 pour ton 35e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Hein. Je penserai à vous en dégustant un onigiri avec l'argent de la contribution. Non, je vous rappelle que l'argent des contributeurs est réservé dans la case comptable pour les salaires et pas le mien. Important à noter. Je ne mangerai pas d'onigiri avec votre argent. Par contre, Karina... Moi, je penserai à toi en mangeant un phare. Tu sais qu'à Tokyo, il y a un resto breton, hein, je crois. Il en faudrait le coup d'aller essayer. En tout cas, il y a des restos français. En vrai, je dis ça, mais je n'ai pas regardé. Je suis sûr qu'il y a un truc breton à Tokyo. Une soirée Tému avec les contributeurs. Ah non, non, je cautionne absolument pas Tému. Hein. Pas de soirée avec eux. Hein. Les Bretons sont partout, clair. Les Bretons ont envahi le monde. Tu soulèves un caillou n'importe où dans le monde, t'as un Breton avec son drapeau dessous. Ouais. C'est comme les crabes. Hein. C'est clair. Non, je pense qu'il y aurait un resto fusion breton-japonais. Je dis ça parce que j'ai mangé à Ho Chi Minh. Dans un... Non, pas Ho Chi Minh, d'ailleurs. À Hanoï. Non. Merde. Bon, au Vietnam, j'ai mangé dans un resto fusion breton-vietnamien. C'était méga bon. C'était méga bon. Il y aura peut-être un Braise Café. C'est le cas à Kyoto. Ah, il y a un Braise Café à Kyoto. Intéressant, ouais. Le sushi et la sardine de Bretagne, ça pourrait être sympa, me clair. Ouais, un sushi au beurre. Moi, j'aime bien le riz avec du beurre. Tu vois, un petit truc de riz avec une fine lamelle de beurre salé dessus. Ça se tente. Ça se tente. À Phnom Penh, un fusion franco-japonais. Ouais, 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 mais ça, c'est chouette, ouais. Il y a plusieurs Braise Café à Kyoto et Tokyo. Ok, c'est bon, les Bretons y sont, tout va bien. Le riz au beurre, si. Moi, j'aime bien le riz grillé au beurre, juste ça. Quand mon riz, il est un peu vieux, parce que généralement, je fais le riz en grande quantité, je le fais griller dans une poêle, dans du beurre. Moi, j'adore ça. La crêperie, la Fédélis, qui appartient à un copain de Quimper. Tiens, bah, je vais le noter tout de suite. Maps. Tu dis la Fédélis, Tokyo. La Fédélis, Tokyo. Ah merde, j'ai mal écrit. Délis. Délis. Ah, en plus, c'est à Shibuya, ouais. Tranquille. Enregistré. Ah, ça a l'air cool, en plus. Ça a l'air très cool. Ah ouais ! Ah ouais ! Ça va faire plaisir, Marion. Une petite pause. En plus, oui, ça a l'air... C'est pas de la crêpe. Après, j'ai fait une crêperie au Japon avec plein de trucs. C'est rigolo, c'est sympa. Mais là, là c'est de la vraie crêperie bretonne, quoi. Ah, très sympa. Très, très sympa. Faire autant de kilomètres pour aller bouffer une crêpe. Ouais, mais attends, j'irai 5 semaines. Franchement, les gens qui voyagent sur des longues durées, ça fait du bien au moins un soir de manger autre chose que local. Et même d'une manière générale, moi, même au Vietnam où j'ai adoré la bouffe, Bah, il y a un soir, on est allé manger, voilà, des burgers tranquilles, quoi. Ça fait du bien, quoi. Une petite pause. Hein? Parce que la coriandre, ça va un moment. Hein. Tu déshonores les Bretons. Bah non, au contraire. Le breton est international. Le breton, c'est une religion. Nous sommes les apôtres. Un bon couscous, non mais en clair... Alors moi, j'aime beaucoup, dans les pays étrangers, voir comment ils interprètent. Par exemple, je suis très intrigué par les restaurants chinois au Japon. Il y en a des très bons. Et la vision japonaise de la cuisine chinoise. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui, le breton est un voyageur. Les îles Malouines, ça vient d'où, à votre avis ? Si, si, il paraît qu'il y a des... Alors, si ! Oh ! Eh ! Ah ! On a trouvé un café à Kyoto qui fait des... Merde ! Ah ! Oh, le trou de mémoire impardonnable ! Ah, Bordeaux, des cannelés. Et ils font trois températures de cuisson différentes du cannelé. T'as le cannelé à peine cuit, mi-cuit, et non, globalement, t'as le mi-cuit, cuit normal, et très caramélisé. Hyper curieux d'aller goûter ça. Hyper curieux d'aller goûter ça, des cannelés. Les Japonais sont quand même très forts pour pousser plus loin des concepts européens. Et ça, j'aime bien. Et j'y vois absolument pas une hérésie. Au contraire. Justement, l'impression que ça donne, c'est qu'ils sont quand même moins fermés que nous, tout de suite. Oh, je vais pas aller manger du camembert qui est pas français. Alors, je suis un défenseur de l'AOC, le respect des... Mais comme je vous ai dit, la cuisine doit être un mélange de tradition et de modernité. La cuisine doit être un respect des us et coutumes et des ingrédients, mais également jamais s'endormir dans des recettes à l'ancienne. La cuisine doit évoluer tout le temps, quoi. M'en veuillez pas les Bordelais, j'ai goûté des cannelés au matcha à Taïwan et j'ai adoré, mais bien sûr. Mais bien sûr, et j'aime beaucoup les cannelés. Hein. Je suis plutôt toque dorée, c'est la toque dorée que Bayard rend. J'adore les cannelés, hein, justement. Et Marion, je veux dire, le cannelé, c'est une religion. Hein, mais elle est très curieuse d'aller goûter ça. La toque cuivrée, pardon. Non, mais en vrai, la cuisine, et je trouve que c'est en ça que la cuisine est hyper intéressante. Ça doit être toujours respecter les origines des choses, mais la recherche et développement en cuisine est hyper importante. On ne va pas s'encrouter dans des vieilles recettes tout le temps. La cuisine doit se réinventer tout le temps. Oui, je sais qu'il y a eu du bad buzz avec Bayardran. Ouais. Ouais, il y a eu du bad buzz. Il y a eu du bad buzz. Si on revenait un tout petit peu dans la tech, donc on a parlé là, de cette histoire de pub, donc je ne vais pas le refaire, mais l'article dont je voulais vous parler ce matin, c'est qu'effectivement, Apple s'est excusé pour cette pub et ça ne sera pas la pub pour les nouveaux iPad Pro qui passera à la télé. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette pub a été réalisée en interne par Apple. Ils n'ont pas fait appel à une agence. Peut-être qu'ils auraient dû, hein. Les agences de pub, ça sert peut-être à quelque chose. Je dis ça, je dis rien. C'était mon vieux métier, donc je prêche pour mon ancienne paroisse. Mais voilà, normalement, une bonne agence de pub, il y a aussi un service juridique et même il y a ce qu'on appelle des créatifs et puis du planning stratégique, ce qu'on appelle, on appelait moi à mon époque le planning stratégique, qui sont capables de dire à une marque, écoutez, je suis pas sûr que ça soit une super idée d'exploser des produits analogiques type piano, pot de peinture et tout ça, sachant que la grande angoisse des artistes actuellement, c'est de disparaître sous la presse de l'intelligence artificielle générative. C'est peut-être pas la meilleure image pour faire passer votre iPad Pro qui se destine à un public créatif. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, Bastille. Si t'as pas vu la pub, et je la repasse pas parce que elle m'a fait bloquer sur YouTube. On voit en fait une grosse presse industrielle. Salut Bastille d'ailleurs, qui vient éclater un piano, une sculpture, des pots de peinture, une guitare, un métronome, tous des trucs analogiques de création artistique en fait. Viennent s'exploser dans une presse industrielle qui descend doucement. Et du coup, la presse se relève et envoie un iPad Pro. Et en fait, beaucoup d'artistes ont très mal pris cette pub. On voit ouais, des bandes de jeux vidéo, on voit des appareils photo et tout ça. Et en fait, ça fait écho. Je comprends que certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi les artistes se sont effarouchés, mais mettez-vous quand même à la place d'un artiste. Et moi, j'ai des potes hein, de mon ancienne vie travaillant dans la pub, des très bons illustrateurs et tout. Ils m'ont dit, ça fait 6 mois, j'ai plus de commandes du tout. Mais plus du tout. J'ai jamais connu ça. Les anciennes agences avec qui je bossais, ils font tout leur ref. Et tout leur storyboard, maintenant, ils les font avec l'AI, quoi. J'ai plus de boulot. Et pareil, quand vous voyez les musiques qu'on arrive à générer automatiquement, ben, je parle pas, encore une fois, et c'est peut-être ce qui va se passer. Là, je vous parle d'artistes intermédiaires. Avec tout le respect que j'ai pour mon pote illustrateur, c'est pas un illustrateur artistique. C'était quelqu'un qui travaillait à la commande. On lui disait, bah, je veux un ref d'une pomme sur un rayon avec une dame qui passe en caddie. Voilà. Et il le faisait, quoi. Maintenant, oui, il est remplacé par une AI. Après, oui, moi, j'ai des discussions avec mon pote et il sait très bien qu'il s'est déjà reconverti. Hein. Il sait qu'il va évoluer. Et même un truc qu'il a fait d'assez malin, c'est qu'il s'est formé, justement, aux AI génératives. Et en fait, les directeurs artistiques ont essayé de faire eux-mêmes des prompts. Mais en fait, ça peut prendre du temps aussi de prompter correctement une AI générative pour faire une illustration. Donc, du coup, ils l'ont appelé. Il a dit, OK, moi, je veux bien vous le faire parce que je m'y connais un peu en AI générative, mais vous me payez, quoi, du coup. Donc, il fait de l'AI générative pour les agences qui, avant, lui achètent. Alors, il lui achète beaucoup moins cher, évidemment, en temps de travail, mais il peut en produire beaucoup plus. Donc, Apple s'est excusé pour cette pub. Ils ne vont pas la passer à la télé. En fait, c'est quand même une erreur de com. C'est quand même une erreur de com, moi, j'estime. Ça donne pas une image. À la limite, j'aurais peut-être vu cette pub chez d'autres marques, mais Apple, leur cœur de cible, en tout cas en communication, c'est quand même les créatifs. Et là, ça donne quand même une impression, on va exploser les créatifs, quoi. Oui, j'ai vu que ça reprenait une pub LG de 2008, ouais. Et ça passait en 2008, il n'y avait pas tous les problèmes. Mais encore même à l'époque, on disait le numérique est en train de tuer une partie de l'analogique artistique. Mais il n'y avait pas l'angoisse de l'intelligence artificielle. Et ceux qui ne comprennent pas l'angoisse des artistes, dites-vous que je ne connais pas votre métier. Mais si je vous dis, je suis sûr d'en toucher un certain nombre d'entre vous en vous disant, vous savez, les 20 pages de PowerPoint pour lesquelles on vous paye. On vous paye actuellement pour faire des PowerPoint d'une vingtaine de pages. Que tout ça, bah, globalement, ça se génère hyper facilement. Et le temps que vous passiez à créer votre PowerPoint, en fait, va être réduit fois 100. Bah, vous allez peut-être comprendre un petit peu l'angoisse de certains artistes. Voilà. Ou, je sais pas, les tableaux Excel qu'on vous demandait de faire et d'analyser. Que tout ça, une IA va le faire mieux que vous sans faire d'erreur. Pas d'accord, Jérôme, c'est pas pour générer des PowerPoint qu'on est payé. Bah, Chessman, c'est bien si c'est pas ton cas. Mais moi qui ai travaillé en agence de pub, je peux te garantir, et j'ai bossé aussi en termes de commercial. Honnêtement, j'étais payé pour pondre des PowerPoint. Hein. Je n'étais pas payé pour avoir les idées du siècle. Hein. C'était juste pour faire des beaux PowerPoint et des présentations qui, en vrai, auraient pu prendre 2 minutes. Mais on étalait ça sur 20 pages. J'ai, pendant longtemps, été payé pour faire un boulot de remplissage. Non, mais les gars, arrêtez de... J'ai dit, je vais toucher un certain nombre d'entre vous. Et c'est pas méchant ce que je dis. C'est pas méchant ce que je dis, c'est réaliste. Moi, j'estime que 80% des boulots sont des boulots de remplissage. Je suis très extrême et ça fait mal. Et l'orgueil en prend un sacré coup. Mais... Et même le métier que je fais aujourd'hui, hein, il y a une partie remplissage aussi hein, qui peut être facilement remplacée par de l'intelligence artificielle. Hein. Il faut être humble. Et c'était simplement parce que bah, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Et il vaut mieux être lucide, effectivement, comme le dit Erzouar, une grosse partie de mon taf pourrait être fait par une IA. On prie que les patrons ne le découvrent pas. Mais il faut prendre les devants aussi. Hein. Dans la finance, c'est la même chose. Mais effectivement, l'analyse des chiffres, bah maintenant, l'IA ne devient pas mauvaise là-dessus. Hein. Donc, je suis désolé si ça ne plaît pas à certains de faire cette introspection. Je ne veux pas vous faire peur, mais à la limite, je préfère vous faire peur que de vous endormir. Pardon. Et vos... Peut-être mieux que vous soyez dans les premiers à utiliser l'IA pour faire ce que vous faisiez avant sans l'IA, pour être peut-être la personne que votre entreprise gardera quand vos 9 autres collègues risquent de ne pas avoir de boulot. Voilà. Je suis un peu d'accord avec toi, Mimo, mais ça va être le problème dans les 20 ans à venir. Notre économie, en fait, si on veut être bassement réaliste, on vous paye pour consommer. C'est une des manières de voir le monde de la société de consommation et du capitalisme. Je ne suis pas anticapitaliste du tout, mais je suis lucide. On a presque plus besoin de vous en tant que consommateur que comme producteur. Donc, c'est le problème auquel les sociétés occidentales vont devoir faire face. C'est la place du travail. Le travail aujourd'hui est lié à la rémunération. Je pense qu'il n'y aura pas une décorrélation totale, mais il y aura une partie de décorrélation entre le travail et l'argent qu'on vous donne. On vous donnera une partie de l'argent juste pour que vous puissiez consommer pour maintenir la production. Et ça, l'IA, c'est là où il ne faut pas tout voir en noir. Alors, je pense qu'il va y avoir 20 années très difficiles. Il y a 20 années, il y a une génération entière qui va en chier. Vraiment en chier avec ces histoires d'IA. Je pense qu'après, bien sûr, l'IA va créer des jobs, mais je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Il va y avoir une refonte totale de la place du travail dans la vie, en fait. On va redéfinir la place du travail. En fait, le travail, c'est l'utilité et le salaire lié à l'utilité. Comment faire dans une société pour que le travail, on ait toujours ce sentiment d'utilité grâce au travail, je sers à quelque chose, parce que le travail, c'est aussi ça, tout en décorrélant la valeur monétaire. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Le salaire universel, attention, hein, le salaire universel, contrairement à ce que certains croient, c'est plutôt une idée de droite, hein. Lisez sur le salaire universel. Non, moi, ce que je pense, et moi, je sais que je me vante pas, mais je pense que j'étais assez précurseur là-dessus. En fait, je pense que tout individu a plusieurs compétences et que nous sommes actuellement dans une société où on nous forme à avoir une seule compétence globalement pour un job et une productivité. Aujourd'hui, n'importe quel individu, il a plusieurs cordes à son arc et parfois il ne soupçonne pas parce qu'il y a certaines choses qu'il sait faire. On lui dit « Ouais, non, mais ça, c'est un hobby, c'est pas un vrai travail, mec. » Et pourtant, ça a une utilité dans la société. Donc, je pense qu'on s'oriente vers un monde, vulgairement, on va dire un monde de freelance. C'est-à-dire que tout le monde aura plusieurs compétences, qu'on aura moins la vision des basses tâches et des grandes tâches, du travail et des hobbies, et des compétences, et que tout le monde exercera plusieurs choses, en fait. On est trop spécialisé. En fait, on a une formation travail qui est beaucoup trop spécialisée aujourd'hui. On est encore très sur un modèle, voilà, carrière unique, travail unique, compétences uniques. Et je pense que pour ça, il faut que la société se mette à reconnaître que, par exemple, jardiner pour son voisin qui n'a pas cette compétence-là, est aussi important pour la société que de remplir des cellules d'un tableau Excel. Voilà. Et on fera les deux. Tu bosseras sur Excel et puis après, tu iras faire du jardinage parce que c'est un truc sur lequel tu es compétent et que tu aimes ça en plus. Voilà. Donc, développez vos cordes. C'est le message. Et on est complètement dans les graviers, mais c'est cool. Plein de petits boulots mal payés. Mais c'est là où il doit y avoir une décorrélation, Oleg. Mais c'est complexe, hein. Moi, je n'ai pas la solution. Sinon, je serais président du monde, hein. On est dans les plates-bandes de géranium. Ben non, mais là, c'est du gravier à tous les étages, là. On est en train de faire notre jardin japonais. On a le mug, c'est le jardin japonais que les Japonais nous envient. Parce qu'on est allé au-delà du gravier bien ratissé. Nous, c'est le gravier projeté. Le gravier en 3D, le gravier en haut, en bas, sur les côtés, partout. Merci de me rappeler que je dois tondre la pelouse. J'aimerais dérégler le robot tondeuse du voisin pour qu'il vienne chez moi. Ouais. Le gravier gastro, ouais. Un peu. Un peu, un peu. Et le gravier avec du beurre salé breton. Mais tout passe avec du beurre salé. Tout passe. Hein? Même l'hypertension. Tu fais pousser des racines de ciguë à la place, on verra pas là. Putain, vous êtes, vous me faites peur, en fait. Article intéressant que j'avais retenu aussi pour aujourd'hui. Qui va succéder à Tim Cook? Hein, parce que Tim Cook, il a quel âge maintenant, Tim Cook? Il a plus de 60 ans, 65. Il doit être entre 60 et 65, non? Tim Cook a déjà indiqué qu'il ne sera pas CEO d'Apple pendant plus de 20 ans. Et de ce fait, en 2031, ah ouais, il a 63. Putain, il va prendre sa retraite tard, hein, quand même. Voilà, de fait, avant 2031, la firme de Cupertino devrait avoir un nouveau dirigeant. Et actuellement, si la retraite de Tim Cook ne semble pas imminente, les médias évoquent régulièrement sa succession. D'ailleurs, Tim Cook a déjà indiqué qu'Apple avait bel et bien un plan de succession détaillé. Et si celui-ci n'a pas donné de nom, il souhaiterait que le prochain CEO soit une personne interne. Donc, ils n'iraient pas prendre quelqu'un d'autre. Enfin, ailleurs. Selon le journaliste Mark Gurman, hein, qui est un des leakers principaux de chez Apple, qui est généralement très bien informé, de nombreux signes suggèrent que quand Tim Cook prendra sa retraite, son successeur pourrait être John Ternu, que vous voyez ici en photo, hein, qu'on voit souvent pendant les keynotes, qui occupe actuellement le poste de vice-président principal de l'ingénierie matérielle, qui est un poste hyper stratégique, hein, chez Apple. Et qu'on a vu récemment dans pas mal d'interviews, John Ternu, c'est vrai qu'il commence à prendre de la place. C'est pas les personnes qu'on connaît le plus chez Apple, mais l'avantage... Parce que je pense que si Tim Cook est malin, il va pas prendre quelqu'un qui a plus de 55 ans pour lui succéder. Parce que sinon, ce sera une succession trop courte. Je sais pas quel âge a John Ternu, mais je pense que ça va rentrer aussi en ligne de compte dans le choix du successeur, quoi. Le mec avec sa coupe de cheveux, comment il s'appelle? Je pense, je connais pas son âge, mais je pense que il a plus de 55 ans, à mon avis. Ouais, John Ternu, il a moins de 50 ans, ouais. Federighi, ouais. Federighi, je sais pas quel âge il a, mais je pense pas que ça soit la bonne génération. Quel âge il a? Cherchez pour moi. J'ai la flemme d'ouvrir mon AI. Federighi. Federighi, oui, si. Il a 49 ans, Ternu. Putain. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, je pense qu'il est plus proche des soins. Il a 54. D'accord. Ouais, je pense. Bon, oui, oh, après, ça fait pas un grand écart, hein, 49-54. Donc, je dis peut-être de la merde. Ok, je dis de la merde. On oublie ce que je viens de dire. Il a une bonne tête. Il a l'air assez posé. Il a un petit côté Tim Cook. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Par exemple, d'après Gurman, l'actuel CEO d'Apple, Jeff Williams, qui dirige les opérations de la firme, est aussi proche de la retraite, puisqu'il a le même âge que Tim Cook, oui. Si, ils le disent quand même. A le sens des affaires nécessaires pour diriger toute l'entreprise. Dearde O'Brien, l'actuel responsable des ventes, n'aurait pas le profil nécessaire pour faire entrer Apple dans une nouvelle ère. Pourquoi John Ternu? John Ternu n'a même pas encore la cinquantaine et pourrait occuper le poste de CEO pendant plusieurs années s'il succède à Tim Cook. D'ailleurs, il s'agit d'une personne qui a rapidement gravi les échelons au sein d'Apple. Celui-ci a rejoint l'équipe dirigeante de la firme en 2021. Ah ouais, c'est un récent. C'est pas un vieux de la vieille, ouais. Et selon Mark Gurman, s'il était en charge du développement de l'ingénierie Mac, dans un premier temps, ses responsabilités ont été étendues à d'autres produits, les iPads, les AirPods et même l'iPhone et l'Apple Watch. En d'autres termes, John Ternus supervise déjà le développement des produits Apple qui génèrent de gros revenus. Ses apparitions sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Et récemment, il est monté sur scène pour présenter les nouveautés durant la keynote. C'est vrai, ouais. Mark Gurman explique que les chances que John Ternus devienne CEO d'Apple augmentent chaque année. Mais comme d'habitude, la prudence est de mise, puisqu'il ne s'agit que de spéculation. En tout cas, après avoir capitalisé sur l'héritage de Steve Jobs sous l'ère Tim Cook, Apple aura désormais besoin de nouveautés importantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la firme s'est intéressée au marché des voitures électriques et la raison pour laquelle elle s'attaque au marché de la réalité mixte. Pas avec beaucoup de succès pour l'instant, mais ça fait que 3 mois. Soyons pas impatients. Ce qui est intéressant, faisons un peu d'analyse, il ne cherche pas un Steve Jobs. Et c'est normal. J'espère un truc. C'est que quand Tim Cook va partir et qu'il y aura un nouveau CEO d'Apple, j'arrêterai d'avoir toujours le même commentaire. Oh non, mais depuis Steve Jobs, Apple, il ne fait plus rien de bien. Dois-je rappeler, en termes financiers, Apple, sous Tim Cook, arrive à des sommets où, et je le dis, je ne pense pas que Steve Jobs aurait pu amener Apple là où il en est aujourd'hui en termes financiers. Donc, tout dépend de ce qu'on considère comme réussite d'une entreprise. Mais je pense que Tim Cook était le successeur idéal parce qu'il a pu mener Apple là où Steve Jobs n'aurait pas réussi à le faire. Steve Jobs était quelque part trop un rebelle et quelqu'un de trop impulsif pour pouvoir amener Apple là où il en est aujourd'hui. Ah oui, Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe. Putain, mais chaque fois qu'il y a un nouveau produit Apple, on a ça, quoi. Au secours. D'abord, on n'en sait rien. Hein. Voilà. Comment peut-on réussir si on n'est pas un tyran comme Steve Jobs? Alors, bon, Tim Cook est quelqu'un qui a quand même une grosse autorité. Il y a des histoires qui circulent sur Tim Cook, mais il a une autorité froide. C'est pas quelqu'un qui arrive dans les bureaux comme le faisait Steve Jobs en balançant des feuilles de papier en disant « T'as fait de la merde, t'es viré !» Parce que ça, c'était un peu le style Steve Jobs. Un peu tyran, expressif, impulsif, artiste, arty. Tim Cook, on raconte cette histoire sur Tim Cook. C'est qu'il y avait une grande réunion chez Apple. Et ils ont présenté les résultats de la Chine et les résultats n'étaient pas bons. Et pendant le reste de la réunion, Tim Cook est resté silencieux. Et à un moment, il a regardé le mec qui était responsable des chaînes de production en Chine. Et il lui a dit très froidement, très calmement en fin de réunion, « Pourquoi t'es pas déjà dans l'avion ?» Et il paraît, c'est peut-être la légende, que du coup, le cadre de chez Apple... Il est parti juste avec son iPad, pas de bagages, il a pris le premier avion et boum, il était en Chine. Donc, Tim Cook, c'est pas un « Wesh les gars, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Allez, tranquille !» C'est quelqu'un d'autoritaire, mais c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de posé. Peut-être qu'il est tyrannique, hein, j'en sais rien. Bah, sympa l'ambiance. Disons que tu ne fais pas une société de cette taille-là non plus en faisant des points de participation pour tes cadres, quoi. Je vais parler un peu comme un Génix, hein. Désolé, mais voilà. Quand tu travailles à ce niveau-là, ouais, il faut une petite forme d'autorité. Je sais que c'est un mot tabou aujourd'hui, l'autorité, mais quand même. Ça n'empêche pas de respecter les gens. C'est... Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Et je comprends que toute une génération, par exemple, que Tim Cook regarde froidement un mec et lui dise bah, « Qu'est-ce que tu fous encore là? Tu devrais être dans l'avion déjà. » soit perçu comme quelque chose de très agressif. Et c'est vrai que moi, j'ai la perception de ma génération Oui, les patrons, bah parfois, ils en avaient un peu rien à foutre de notre week-end, quoi. Si un truc avait été mal fait, bah on payait les conséquences de ça. Et oui, j'ai sucré des week-ends parce que j'avais mal fait mon boulot. Moi, j'estime que si on m'engueule parce que j'ai mal fait mon boulot, c'est mérité. Et c'est pas une forme d'irrespect. Après, si on m'engueule après que j'ai bien fait mon boulot, là oui, c'est un irrespect. Mais c'est peut-être une différence de perception. Je sais que des plus jeunes diraient, non, il n'y a jamais à engueuler quelqu'un. Je suis très partagé sur le sujet. Après, il y a des manières d'engueuler. Là, il l'a pas non plus insulté, le mec. Oh bah moi, j'ai le pire patron qui soit. Mon patron, c'est vous. Et si je me fais descendre en flammes sur une vidéo dans les commentaires, et si je fais une centaine de vues, je peux vous dire que je sais que j'ai mal fait mon boulot. Et quand nos vidéos, elles font pas beaucoup de vues, j'ai mal fait mon boulot. Voilà. Bah, Sanid, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que si j'ai mal fait un truc, c'est que j'ai utilisé du temps payé pour ne pas faire ce pour quoi j'étais payé. Donc qu'après, je prenne du temps personnel pour rattraper, ça, en fait, c'est débattable. Ça dépend comment c'est fait. C'est des questions de forme. Sachant qu'en plus, là, on est en train de parler de cadre. Je suis pas en train de parler non plus d'employé. Je veux dire, en théorie, un cadre a un salaire qui n'est pas le même qu'un employé. Pas de vacances au Japon pour Jérôme. Ouais, attention, hein, je suis un syndicat à moi tout seul. Hein, et je vous amène tous au prud'homme, hein, un par un. Hein, je vous dépouille. Vous savez que j'ai été délégué syndical quand j'étais employé, moi? Vous croyez que vous avez affaire que à un Jérôme de droite libéral et tout? Non, 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 non. Je m'y connais en revendication. J'étais délégué syndical dans ma boîte. Ah, moi, j'étais délégué de classe, mais j'ai été viré d'être délégué de classe. Faudra que je vous raconte ça un jour. Il y a des syndicats à droite, c'est vrai. Elle est où la casquette de Guillaume? Moi, j'ai pas besoin de casquette hein, pour être de gauche. Hein. J'ai mes moments de gauche, j'ai mes moments de droite. Et ça peut changer très vite. Hein. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas dire non aux enfants. Il faut leur proposer de faire différemment, mais pas dire non. Je te jure, je deviens sourd. Ouais, alors attention, hein. Je ne suis pas non plus réac à dire. Ouais, parce que j'ai connu aussi les abus des patrons et les abus d'autorité. Et je suis content qu'on ne vive plus à cette époque-là. J'ai connu la dissimulation aussi des affaires graves dans des entreprises. J'ai vu des choses aujourd'hui qui passerait pas du tout et j'ai pas envie qu'elle revienne. Donc je suis pas du tout non plus dans une idéalisation des méthodes managériales d'autrefois. Vraiment pas. Mais voilà, pour en revenir à ce qu'on parlait, je pense que quand tu as des cadres très haut placés et généralement très bien placés, il y a un moment il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi, hein. Non, non, mais ça valait le coup que je précise. Disons que, oui, non, non, franchement, je suis content de vivre en 2024. Hein, mais bon, voilà, il faut. Oui, l'entreprise, ce n'est pas. Après, je suis le premier à le dire, j'ai toujours dit, l'entreprise n'est pas une démocratie. Et oui, il faut une forme d'autorité dans une entreprise pour que ça marche. Et on en revient à l'article, effectivement. Marc Gurman qui explique que John Ternu... Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, un bon patron pour Apple sera effectivement quelqu'un comme Tim Cook. En fait, il faut quelqu'un de calme, quelqu'un qui ait la tête froide. Ce que n'était pas du tout Steve Jobs. Et c'est vrai que John Ternu a l'air d'être quelqu'un de calme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas une forme d'autorité. Bien sûr, tu es payé pour avoir des responsabilités en tant que cadre. Bah, disons que dans toute entreprise, je continue là-dessus parce qu'on est vendredi, on s'en fout. Quand tu diriges une entreprise, quelle que soit sa taille, il y a des moments où tu peux écouter tout le monde et où tu dois écouter tout le monde et où il peut y avoir une forme effectivement de démocratie et d'écoute de la parole des autres et du bien-être des autres. Okay. Après, il y a des moments, et c'est souvent quand une entreprise va mal qu'on juge de la qualité managériale d'un patron. Parce que quand tout va bien, tout est facile. Et on peut avoir des grandes théories, des réunions sur le bien-être, etc. Pour moi, un bon patron ne se juge qu'en période de crise, quand les choses vont mal. Et sa capacité à ce que tout le monde agisse pour pas que ça s'empire et redresser la barre, bah oui, ça va peut-être vous sembler autoritaire, mais c'est des moments où on ne peut pas être complètement à l'écoute de toutes les problématiques de tout le monde. Il y a des moments, et nous on l'a connu hein, avec notre chaîne YouTube, il y a des moments où j'ai dû dire, écoutez, là il y a un certain nombre de choses, c'est comme ça qu'on faisait, maintenant il va falloir faire différemment, il va falloir qu'on soit un petit peu efficace, parce que sinon on va droit dans le mur. Et je n'ai pas dit, il va falloir que vous m'obéissiez, mais en gros... Il n'y avait pas, parce qu'il fallait qu'on réagisse rapidement à certaines situations, il n'y avait pas de place pour des dialogues longs avec peser le pour et le contre. Il fallait prendre des décisions et j'ai pris des décisions unilatérales sans consulter le conseil des autres parce qu'on n'avait pas le temps. Voilà. Donc oui, c'est pas une question de... main de fer dans un gant de velours et tout, c'est qu'il y a une temporalité dans l'entreprise. Une entreprise ressemble beaucoup plus à un bateau dans lequel, bah, en cas de tempête, en cas de danger, bah, il faut un capitaine qui prenne un certain nombre de décisions pour pas qu'on s'éclate contre les rochers ou qu'on coule comme une merde. Et puis après, il y a d'autres moments où ça va, où on peut effectivement faire une réunion sur le pont et on dit, bon, quelle sera la prochaine destination ? Discutons de ça ensemble. Voilà. Guillaume n'a pas supporté s'en aller. Si vous voulez inventer un drama, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc oui, je sais que ce type d'autorité est parfois mal vécu par certaines générations arrivant sur le marché du travail, mais il y a un temps pour tout, en fait, je pense. Mais après, attention, hein, je dis ça avec d'énormes pincettes. Les petits caporaux dans les entreprises, les mecs, on leur donne ça d'autorité et ils deviennent des mini-tyrans, là. J'en ai connu, j'ai démissionné à cause de mecs comme ça, j'en ai fait virer aussi. Et même si je me suis mis en freelance, c'est parce que je supportais pas un de mes patrons. Hein. Donc je sais aussi ce que c'est que l'autorité mal placée et les petits patrons de merde. Hein. Les chefs faillons ou tout ça, oui, bien sûr. Mais ils ne sont pas tous comme ça, c'est ça que je dis aussi. On a le droit d'inventer des dramas. Guillaume a dû partir car le drapeau breton était obligatoire derrière les caméras. Bah, c'est clair, j'ai interdit le drapeau toulousain et j'ai imposé le drapeau breton. Not all chiefs. Un peu. Bon, eh ben, écoutez, on souhaite bonne chance à John Ternu. John Ternu, en plus, ça va être bien parce que on pourrait dire... Apple, ils ont pris un coup de froid et John n'a ternu. On pourra faire cette blague-là. Hey, John s'est rhabillé, il est plus ternu. Non, ça marche pas. Les blagues, ça va être horrible. On a failli y échapper. Non, trop tard. Trop tard. Il est bien temps que tu coupes le mug. Non, on a un débat à faire, ça va, il est juste 9h35. Eh, oh, décontractez-vous, là. Et avant même de faire le débat, j'aimerais parler des Simpsons. Voilà, Samuel, il est en PLS. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Non, mais j'aimerais parler des Simpsons. Parce que vous l'avez tout, et vous le répétez tous. Je vous ai vu hein, dans le chat. Chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, on dit... Les Simpsons l'avaient prédit. Il y a un épisode des Simpsons où il y a vraiment ça. La tech s'enrhume et John ternu. Ouais, non, mais oui, les jeux de mots, là, ça va être terrible. Bref, les Simpsons l'ont prédit, et moi, le premier, hein, j'ai aussi relayé des trucs. Oh là là, c'est troublant. Les Simpsons, il y a 20 ans, ils avaient fait un épisode là-dessus. Eh bien, tout ça est complètement faux. La série des Simpsons aurait prédit des événements majeurs pour l'année 2024 sur Internet. Certains semblent tentent de faire croire au travers d'images et de vidéos modifiées. Certains événements récents de l'actualité ont également été présentés comme des prédictions des Simpsons sans fondement. En fait, il y a autant de rapports, et là je ne vais pas me faire que des amis, mais il y a autant de rapports. D'abord, partons sur quelques postulats clairs. Les Simpsons ont ratissé large. Il y a énormément d'épisodes des Simpsons. Et South Park, c'est pareil, parce qu'on parle aussi souvent de South Park. N'oublions pas qu'ils ont fait énormément d'épisodes. Il y a peu de sujets qu'ils n'ont pas abordés. Ça, c'est le premier postulat. Deuxièmement, souvent, ce qu'on nous relaie sur Internet, c'est... Soit des montages, et là, je vais vous montrer, par exemple, si vous avez vu cette image-là, elle a été créée, elle n'existe pas, c'est pas une vraie image des Simpsons. Et on vous a dit, oh, ils avaient prévu ce qui arrive à Dubaï avec les incendies. Cette image, elle est fausse. OK ? Ça aussi, c'est fabriqué. Ça, c'est un montage. Voilà. Donc, on va vraiment souvent vous faire des montages et dans une base de données qui est énorme. Parce que c'est ça le plus important. Le taux de réussite de prédiction des Simpsons. Et d'après Comic Book, la série a fait 7482 prédictions et 12 se sont réalisées. Donc, le taux de réussite n'est pas vraiment élevé. Voilà. Il y a 7482 épisodes. Les Simpsons sont toujours une critique des outrances de notre société. Mais c'est comme Black Mirror, c'est dire Black Mirror se trompe pas. En fait, t'as pas besoin d'être super intelligent ni un devin pour comprendre les outrances dans lesquelles notre société va. Il y a pas besoin d'être devin. Il suffit de tirer un peu la ficelle. Et tu peux voir les excès de notre société, les exagérer un peu, et boum, tu tombes pile poil. Et en fait, bah, ça marche comme tous les devins. Parce que Nostradamus, c'était pareil. Nostradamus, c'était le Simpson de l'époque, quoi. Il a fait je sais pas combien de prédictions dans ses bouquins. Et du coup, ouais, il y en a qui tombent bien, quoi. Voilà. C'est de la probabilité. En fait, c'est même le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative. C'est de la proba, en fait. Et là, la proba, En fait, le truc, c'est que les Simpsons ayant fait bah, manifestement quasiment 8000 épisodes, les chances, la probabilité que certains épisodes et certains trucs, et comme la base des Simpsons, c'est de dénoncer les outrances de notre société et de montrer où est-ce que ça pourrait aller, bah, la probabilité que ça colle parfois au truc, elle est pas mal. Et malgré ça, en vrai, il n'y a que 12 fois où ça a touché pile poil. Donc, c'est intéressant parce que, avouez-le, on a souvent dit, oh, c'est troublant, les Simpsons, ils avaient prévu. Et je trouve ça intéressant qu'on voit une autre perspective de ça. Nostradamus, c'était une IA générative. Non, mais il fonctionnait comme une IA générative. Il a fait une grosse base de données de voilà ce qui va arriver. Et du coup, bah, de temps en temps, ça marchait. Black Mirror, moi, ça me. Enfin, quand on dit, waouh, Black Mirror l'avait prévu. Ben oui, parce qu'en fait, ils ont juste extrapolé sur ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est facile. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est là où je ne vais pas me faire des amis. Les devins, ça n'existe pas. Les voyantes, ça n'existe pas. Boum! Ça, c'est dit. Et de tout temps, l'humanité a voulu qu'il y ait des devins et des voyantes. De tout temps, l'humanité veut prévoir son avenir. Et c'est normal, c'est une angoisse existentielle. Je suis pas en train de dire que ça sert à rien, machin et tout. Mais dis, voilà, c'est juste une tentation humaine parce que c'est une angoisse existentielle qu'on a de quoi est fait notre avenir. Donc on va se raccrocher à peu près à n'importe quoi qui nous fait dire, waouh, ils avaient prévu ça à l'avance. Donc, après, c'est une opinion. Je veux pas, mais quand je dis ça n'existe pas, la voyance et les devins, c'est mon opinion. Je respecte celle des autres. Il y en a peut-être d'entre vous qui croient à ces sciences occultes ou enfin à la véracité de ça. Moi, j'y crois pas. Vous l'aurez compris. Après, je crois aux fantômes. Ouais, c'est le jour de révélation. Hein. Tu vas voir un gremlin dans ton avion, tu vas pas y croire. Il y a une prédiction qui a un taux de réalisation très élevé quand les modos prédisent l'heure de fin de mug. Ouais, mais eux aussi, ils se basent sur une immense base de données d'échecs. Est-ce que je crois aux extraterrestres? Ben, comme n'importe quelle personne qui a une vision un petit peu scientifique des choses, il n'y a aucune raison pour que les extraterrestres. Il n'y a aucune raison logique pour que notre planète soit la seule dans l'univers entier où la vie existe. Après, la probabilité d'une vie intelligente qui se pose la question de est-ce qu'il y a d'autres vies qui existent, c'est déjà plus faible, mais ça existe aussi. Donc voilà un peu où j'en suis de ma croyance extraterrestre. Il y en a juste derrière toi, Jérôme. La vérité est ailleurs. Ouais, mais parfois la vérité, elle est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Mais comme la vérité, elle fait pas envie, elle n'est pas sexy, la vérité, on va chercher des vérités ailleurs. Ça, ce que je dis, c'est très vrai, hein, les gars. La probabilité des extraterrestres pensants est statistiquement non nulle. Voilà, point. Ça va nous manquer les murs de gravier. Ah, là, je vous fais... Là, c'est un peu le bouquet final gravier avant le départ. Je vous en fais un magnifique. Hein. Terril. Là, je vous laisse un bon tas là, avant de partir. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés, effectivement, nous interrompons le mug à partir de la semaine prochaine et nous reviendrons le 24 juin. On part travailler au Japon pendant 3 semaines et ensuite 15 jours de vacances au Japon. Donc, ce n'est pas que des vacances. Hein. Merci à ceux qui me souhaitent des bonnes vacances, mais je peux vous dire au début, ça ne va pas être des vacances. Donc, on part... enfin, moi, je pars pendant 5 semaines et je n'ai pas voulu prendre des engagements sur les lives parce que j'ai des journées de prod qui vont... On va avoir des journées de prod très chargées. Et après, je suis en vacances. Voilà. Avant de prendre des petites questions, on ne va pas faire le débat parce que je ne vous sens pas chaud là-dessus. Mais je vous invite quand même à aller lire cet article, et je vais le remontrer, c'est dans l'Express, article d'Emmanuel Freund. Ça donne du grain à moudre sur la réflexion, parce que c'est un peu la réponse facile, je trouve, aujourd'hui, des problèmes de notre société, de dire « il faut interdire les écrans aux enfants ». La commission des écrans du 30 avril et tout. Et je trouve que je suis assez d'accord que... En fait, s'il y a des décisions, c'est un peu des décisions à l'emporte-pièce. Je ne suis pas non plus pour dire « laissez les enfants tranquilles avec leur smartphone, faites chier les vieux cons, machin et tout ». Je suis pour un entre-deux. Je suis d'une génération qui a été élevée par les écrans. Moi, c'était juste l'écran de la télé quand j'étais gamin. Et moi, je suis du genre à dire « la télé, j'ai regardé beaucoup plus de conneries à la télé que je n'en ai regardé sur Internet ». Ça va pas plaire à certaines personnes de ma génération qui ont idéalisé leur enfance. Mais moi, j'essaie de rester lucide par rapport à mon enfance. On a regardé mais des tombereaux de trucs cons, mais cons comme la lune, avec tout le respect que j'ai pour la lune, à la télé, et on n'avait pas le choix. On a été abreuvé de conneries beaucoup plus que TikTok. Et c'est ce que je pense. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Eux, ils pensent que quand ils étaient gamins, ils lisaient des livres, machin. Non, je suis désolé, je lisais pas trop de livres quand j'étais gamin. C'était des BD et beaucoup, beaucoup de télé. Donc, voilà. Désolé d'enlever le vernis de la nostalgie à certains, mais je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui regardent un contenu plus dangereux que nous. C'était une propagande d'État, je suis d'accord, la télé. Il y avait beaucoup moins de diversité. Tu fais bien de le rappeler, Bobo le maladroit. On regardait Shérif, fais-moi peur. Une série, si vous la regardez aujourd'hui, elle serait taxée, mais c'était une série extrême droite, hein, Shérif, fais-moi peur. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des dangers aujourd'hui. Attention, je ne suis pas en train de dire... Il y a des dangers spécifiques, effectivement, le doom scroll, le scroll infini, les problèmes d'addiction. Mais alors, les problèmes d'addiction à la télé, on les avait aussi. Hein. On les avait aussi. Attention, il n'y avait effectivement pas le doom scroll. Là, aujourd'hui, il y a effectivement des phénomènes qui sont plus dangereux, qu'il faut encadrer. Mais de là, en arriver à des lois d'interdiction, des lois nationales d'interdiction avec des temps d'écran, machin, je suis d'accord, en fait, aller lire l'article d'Emmanuel Freund, je trouve que c'est excessif. Donc... Maintenant, les gosses ont plus de choix, même s'ils regardent toujours des trucs débiles. C'est pas la faute aux écrans. Ouais. Après, attention, hein. Il y a de l'encadrement quand même à faire des jeunes aujourd'hui, de l'éducation, leur apprendre effectivement le plus possible ce qu'est un contenu dangereux, un contenu intelligent. Mais voilà, c'est pas l'écran le problème, c'est ce qu'on regarde dans l'écran, comme d'habitude, hein. Mais ça me rappelle tellement des décisions à la con qui ont été prises aussi à mon époque, quand j'étais enfant. Moi, je me souviens, le lycée qui avait interdit les jeux de rôle, quoi. Parce que ça nous rendait sataniste. Est-ce que j'ai une tête de sa... Est-ce que je suis devenu sataniste? Est-ce que je suis devenu sataniste? Malgré mes heures et mes heures de Donjons et Dragons. Voilà, moi, à mon époque, les jeux vidéo aussi, putain, on les a diabolisés. Mais MacGyver a fait énormément de dégâts, rien que déjà sur les établis de nos papas. On a tout pété à cause de MacGyver. Regarde, papa, j'ai fait une centrale atomique avec le tuyau d'arrosage. Non, on en a fait des conneries. Mais pareil, l'arrivée des animés, des mangas en France, culture du diable. Culture du diable. Et maintenant, quand le président de la République va au Japon, on lui offre un tableau de... Ou ça a été l'inverse, quand on lui a offert un tableau One Piece, quoi, monument culturel. Moi, je viens d'une époque où, regardez Goldorak. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Sankukai? Je veux dire, regardez un épisode de Sankukai aujourd'hui. Et pourtant, on idéalise ça, genre... Non, mais c'était beaucoup plus intelligent que TikTok. Hein. Non, je suis désolé, regardez un épisode de Sankukai aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout plus intelligent que TikTok. Hein. Vraiment pas. XOR, putain, ouais, ça tu l'as sorti de loin, celui-là. Mais attention, je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes spécifiques. Le fait que effectivement les réseaux sociaux soient masse mondialisés et que ils sont parfois détournés et qu'il y a de la manipulation de la pensée par les réseaux sociaux, je dis juste que la télé, il y avait aussi de la manipulation de la pensée, sauf que c'était plus le gouvernement, on va dire, qu'il y ait des problèmes d'addiction liés à des algorithmes de machines à sous, oui, il y a des problèmes spécifiques à notre époque et il faut les traiter. Mais je ne suis absolument pas sûr que d'interdire les écrans aux enfants résoudra quoi que ce soit. Donc soyons lucides de la culture d'où on vient avant de juger la culture des plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des garde-fous. Hein? Je suis content que mes parents, par exemple, m'aient interdit de jouer aux jeux de rôle à une période de ma vie, parce que sinon, je pense que le bac que j'ai déjà eu à l'arrache de chez l'arrache, je l'aurais même pas eu du tout. Parce que moi, voilà, les révisions du bac, c'était derrière un paravent en jetant des dés, hein. Donc, oui, un certain encadrement. Est nécessaire. Mais j'aime pas ce type de règles. Faut interdire les écrans. C'est débile, je trouve. Perso. Bref. Écoutez, Il est 9h. Je vous propose une petite demi-heure encore. On va se faire un petit 10h30, histoire de battre les records. Non, on va faire le mug jusqu'à ce que Karina arrive. Et là, il y a Samuel. Il est en train d'envoyer un SMS à Karina. Arrive le plus vite possible. Non, mais si vous voulez qu'on continue à discuter. Après, si tout le monde quitte le chat, je le prendrai comme un signal qu'il faut arrêter. Ok, on fait ça. Ok, moi, voilà, la voix de la démocratie. Hein, je suis à l'écoute de tout le monde. Je suis woke de chez woke. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Si vous quittez tous le chat maintenant, j'arrête l'émission. Non, 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 Samuel, ça, c'est pas du jeu si vous bannez tout le monde. Oleg a effacé le chat pour les spectateurs de cette salle. Oleg, t'as pas le droit. C'est triché. C'est triché. Ma modération qui fait une rébellion, ça va pas. Ah. La vache, c'est chaud là ce matin. On est en plein coup d'état. Le mode bouclier est activé. Faites gaffe, hein. C'est chaud. Le truc, c'est comment mettre en place un contrôle parental efficace et pertinent. Je vais dire une super grosse banalité, Anaïs Cerise, mais je le pense vraiment, le dialogue est hyper important. Il faut dialoguer. Au début, pas juger. Il ne faut pas juger de la culture des enfants. Il faut essayer de la comprendre, que eux comprennent aussi ce qu'ils sont en train de regarder. Donc, beaucoup, beaucoup de dialogue. Je sais, c'est épuisant, hein, l'éducation. Enfin, je sais, je n'ai pas d'enfant. Donc, je ne me permettrai jamais de donner des conseils d'éducation à des parents, je n'ai pas d'enfant. Mais il me semble, pour voir quand même beaucoup de parents autour de moi, mes sœurs ont des enfants, j'ai des neveux et nièces et tout, qu'une grande part du secret, c'est un maximum de dialogue. Viens dialoguer avec mes ados. Je comprends aussi qu'à l'adolescence, c'est un moment où je l'ai vécu aussi, le dialogue est difficile parfois avec le représentant parental, peut-être pas hésiter effectivement à faire intervenir des personnes extérieures dans le dialogue adolescent. Il n'y a que les abonnés qui parlent, putain. Hein, mais vous avez essayé votre coup d'état, là. Je retiens, hein, les modos, hein. Non, mais après, c'est pour ça. Hey, les parents, personne ne vous juge. Les parents, c'est déjà admirable ce que vous faites. Et c'est dur, c'est chaud, et personne n'a à vous juger. Moi, vraiment, je mets un point d'honneur à essayer de ne jamais juger les parents autour de moi. Parce que pour la plupart, ils font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Donc, voilà, jamais je me permettrai de donner des leçons aux parents. Oui, alors, oui, vous m'amenez dans des outrances. Bien sûr, si je vois un parent qui a un comportement violent ou dangereux pour un enfant, oui, là, j'interviens. Mais voilà, parfois... Franchement, il y a des parents, et je veux dire, on est tous des êtres humains. Hein, moi, je me mets à la place, putain, certaines situations. Il y a des enfants. Et le truc aussi, c'est qu'il y a des enfants faciles, pas faciles. Ça ne préjuge rien sur la validité, sur la qualité de l'individu que va devenir l'enfant. Il y a des enfants plus ou moins difficiles. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que les enfants difficiles vont devenir des connards plus tard, ni que les enfants faciles vont pas devenir des connards. Mais oui, il y a des caractères très différents, quoi. Il n'y a pas que l'éducation, hein. Il y a de l'acquis, il y a de l'acquis, il y a de l'inné dans tout individu, hein. Moi, je le dis parce que, par exemple, dans ma famille, on a tous les trois des caractères assez différents. Et on a tous les trois posé des problèmes à mes parents, mais des problèmes différents. T'as deux garçons, enseignement identique, mais les deux sont complètement différents. Oui, on est tous des individus, hein, et on a une part d'acquis, on a une part d'inné. Moi, j'y crois. Je sais que c'est des longs débats, mais oui, je pense qu'on est avec des fonds de caractère quand même. On était tous chiants à notre façon. Ah non, mais clairement. Je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime toujours, c'est l'influence des cercles extérieurs à la famille. Effectivement, on est vachement défini dans la vie par les amis qu'on a eus. Alors, ça peut faire peur aux parents parce que du coup, si on traîne avec des gens pas bien, ça peut. Mais c'est pas complètement faux. Il faut effectivement quand même faire attention à l'entourage des enfants, parce que moi, par exemple, mes codes moraux ont été beaucoup définis par mes potes et tous les côtés toxiques de la masculinité m'ont été enseignés finalement par mon environnement de petit garçon. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des sœurs qui m'ont dit assez tôt, ça se fait pas trop ça, et ça se dit pas trop, hein. Et elles m'ont fait comprendre. Enfin voilà, c'est cool d'avoir eu des sœurs, je le néglige pas, pour comprendre aussi, me mettre un tant soit peu à la place parfois, et de voir surtout, ça m'a ouvert les yeux sur assez tôt sur des problèmes. Que la moitié de l'humanité n'est pas considérée comme l'autre moitié de l'humanité. J'ai eu cette chance-là d'avoir des sœurs là-dessus, quoi. Mais quand même, j'ai eu plein de comportements toxiques qui m'ont été enseignés par mes potes, hein. Donc, on n'a pas eu vraiment un débat sur cet article, mais nous avons un débat sur l'éducation. C'est intéressant. Alors, tout à l'heure, certains essayaient de me poser des questions. Reposez-les maintenant, parce que là, je suis plus apte à y répondre. Je me souviens même plus de vos questions. Il y en avait qui avaient des questions. Je ne sais plus ce que vous vouliez me poser comme question. Si vous en avez, c'est une grande sœur. Comme nous tous, jusqu'à ce qu'on se prenne une claque dans la vie pour comprendre. Je souhaite à personne de se prendre des claques dans la vie, mais ça aide. Salut Deep Fun. Tiens, je n'ai pas remercié là, les derniers contributeurs. Torquay67, merci pour ton 28e mois d'abonnement. Seven, merci pour ton 17e mois d'abonnement. Eric Tech, merci pour ton 28e mois d'abonnement. Pires Dinis, merci pour ton 39e mois d'abonnement. Merci les contributeurs. Ah, ce que j'amenais comme objectif. Alors, j'amène un 100 mm. J'amène un 18. Et j'amène mon 35. Mais en vrai, alors je ne peux pas tout vous dire pourquoi j'amène certains de ces objectifs. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai pour ambition, avec mon boîtier dédié, de faire une série un peu détail du Japon au 100 mm. En fait, j'ai l'intention de me balader que avec mon 100 mm. Ce qui est quand même une focale très engageante. Tu fais pas tout au 100 mm. Hein, tu fais pas une photo de temple au 100 mm, ou alors faut quand même être loin. Mais pour mes photos grand angle, tout ça, je les ferai au smartphone, en fait. Voilà. En fait, je vais faire un truc, je vais vous spoiler une vidéo. Je vais faire un truc que j'ai appris il y a 2-3 ans en faisant un voyage photo. C'est qu'en dehors de mes photos de tourisme, c'est-à-dire « waouh, le temple, waouh, le café matcha, waouh, le combini », je vais essayer, parce que je trouve ça très amusant, de faire une série. Je n'ai pas encore le sujet, mais je vais essayer de faire, je ne sais pas, une série sur les cordes au Japon. Voilà, par exemple, les cordes au Japon. Pourquoi pas ? Ou le bois. Ou la pluie. sous toutes ses formes. Ou l'eau, par exemple. Je vais essayer de faire une série qui ne sera pas juste une photo par jour, mais essayer de chercher un truc dans un thème, dans la journée. C'est quelque chose d'assez amusant à faire quand vous voyagez. Ça change de la photo de tourisme et c'est rigolo, quoi. Et avec la contrainte de n'utiliser qu'une seule longueur focale. Ouais, c'est le 100 mm de 8 qui a l'avantage en plus de faire de la macro. Et comme dit Oleg, en fait, quand vous faites ce genre de truc pour faire une série, l'idée, c'est de faire une série de photos sur une thématique. Plus vous mettez des contraintes dans cette série, plus vous allez être créatif. Alors, il ne faut pas non plus faire le truc impossible. Mais par exemple, une thématique rigolote, c'est prendre des photos de touristes qui sont en train de prendre des photos. Et vous faites une thématique. Ce n'est pas le genre de photo que vous mettrez sur Instagram ou montrez à vos potes pour dire « Ah, regardez, je suis en train de faire ça au Japon ». Mais par contre, ça peut vous donner aussi une série de photos décoratives que vous aurez peut-être envie d'imprimer et d'afficher chez vous. Parce que ça peut donner, par exemple, des résultats assez graphiques. Et sur un pied, une main dans le dos, tout à fait. Donc, moi, de plus en plus, mes vacances sont ça. J'amène mon appareil photo dédié et j'utilise une seule focale dessus, une focale un peu exigeante. J'aime beaucoup le 85 mm. J'ai envie de voir ce que je peux faire. Peut-être qu'au bout de deux jours, je vais faire, mais je suis complètement con, je reprends un 35 mm. 35 mm, c'est l'objectif le plus polyvalent hein, pour faire tous les types de photos. Je veux voir ce que ça donne un 100 mm. Je vous garantis pas d'y arriver, hein. Il faut avoir la modestie. Je suis pas un photographe, hein. Je suis pas un artiste, hein. J'aime juste m'amuser avec la photo. Je trouve que c'est assez amusant de faire ça. Ça change de la photo documentaire d'influenceur. Waouh, regardez, je suis là. Il faut les faire. C'est mon job. Je vais les faire. Je suis pas un très bon influenceur dans ce sens-là. Mon Instagram est un peu pfff. Mais c'est pas grave. Mais des photos de poignée de porte, tu rigoles, mais moi, je suis quelqu'un sur Insta, je ne sais plus son nom, il prend que des photos de porte. C'est génial. Non, mais les photos souvenirs, moi, je fais tout au smartphone. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, je ne me fais pas chier. Hein. La photo, et c'est des belles photos, j'essaye de faire des belles photos, de bien cadrer et tout. Ce n'est pas parce que j'ai un smartphone que je vais faire des photos de merde. Cadrage, composition, choix du sujet, je vous fais chier avec ça. Je vais faire des belles photos de tourisme avec mon iPhone et peut-être même des photos dans ma thématique avec mon smartphone parce que je ne vais pas prendre mon boîtier tout le temps avec moi. Ça, je ne le fais plus, ça. Vous ne me verrez pas toute la journée avec mon boîtier. Hein. Les graviers. Ouais, mais c'est presque trop facile, les graviers au Japon, parce que c'est vrai qu'avec la culture du jardin japonais, c'est presque une thématique trop facile. Les photos de geisha, c'est interdit. À Kyoto, les quartiers des geisha, tu peux plus y aller. Et en fait, ça se faisait pas trop. C'est pas des attractions touristiques, hein, c'est pas Disneyland. Geisha est un vrai métier artistique. Et d'abord, on prenait des... quand tu vois des geishas en tenue, c'est pas des geishas. C'est merde, c'est quoi le nom des apprentis? Et elles sont en train d'exercer leur métier. Alors, ça veut pas dire que t'as pas le droit de les prendre en photo, mais c'est un peu comme si tu prends une photo de quelqu'un en train de bosser. C'est un peu irrespectueux. C'est pas des attractions touristiques, les geishas. Ah non, c'est pas du tout des prostituées, les geishas. Ça, c'est une vision occidentale. Non, non. Ça... Revenu de ma réunion, vous êtes encore là, Karina va te déloger. C'est le but. Les meiko, qui sont les apprentis geishas. Geisha, c'est un métier d'art. C'est une profession artistique. Renseignez-vous sur les geishas. En fait, moi, je l'avais dit quand on avait parlé des problèmes de surtourisme de Kyoto. Je pense que la municipalité, elle fait bien de bloquer les rues pour pas que les touristes... Parce qu'il y a eu des abus, hein. Des touristes écrasaient des mégots dans les chevelures des Meiko, quoi. Comment on peut arriver à ce niveau-là de stupidité? Le problème, c'est qu'on paye tous pour des crétins pareils. Mais bon, c'est le problème du tourisme. On paye pour les crétins. Et on passe pour des crétins parce qu'il suffit d'un crétin pour qu'on passe tous pour des crétins. C'est énervant, mais c'est comme ça, le tourisme. Le truc, c'est que la municipalité, plutôt que de faire ça, ce qu'elle devrait faire, c'est canaliser, effectivement, dans 2-3 rues, payer des actrices, ou même, peut-être, des geishas, pour tenir le rôle de geisha. Mais au moins, elles seront payées pour devenir une attraction touristique. Parce qu'une attraction touristique, c'est canaliser aussi le flux de touristes, de créer des attractions. Le problème, c'est qu'en niant le truc, en disant « Vous n'avez pas le droit de prendre des photos des geishas », ça les rend encore plus... Les gens vont essayer de voler la photo de geisha, quoi. Non, il faut les canaliser. Il faut les canaliser. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi on en était là. Donc oui, non, les photos de geisha, comptez pas sur moi. Je n'ai pas... De toute façon, je ne suis pas très street photo à prendre des photos, des portraits à la dérobée de gens. Ce n'est pas trop mon truc, personnellement. C'est une opération commerciale pour la chaîne Le Voyage au Japon. On a, disons que oui, on a des sponsors. On tourne 3 vidéos là-bas pour lesquelles on a des sponsors. Alors non, il y en a une, il n'y a pas de sponsor. Enfin, c'est compliqué. Mais oui, non, globalement, disons qu'il y avait un projet qui a fait que je dois aller au Japon pour des raisons professionnelles. Et à partir de là, je me suis dit, j'y reste parce que j'ai pas envie de faire un aller-retour. Vu quand même l'empreinte carbone qu'on laisse d'un vol aller-retour au Japon, autant que j'y reste le plus longtemps possible, autant que du coup, j'y programme aussi des vacances. Ça change pas le fait, effectivement, qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je pèse lourd en 2024 avec ce voyage au Japon. Mais du coup, j'essaye. Je le remets pas en question. Hein. Je suis pas en train de me blâmer ou de me faire du shaming, machin. Il était hors de question que je n'aille pas au Japon. Voilà, que ça soit clair. Mais j'ai cherché à étendre le plus possible et que du coup, on produise 2 autres vidéos au Japon et que j'y passe mes vacances. Voilà. Pour les photos des gens, ça dépend des pays. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. C'est juste que moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Et prendre une photo de quelqu'un, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Ah, joli. Oui, alors, le truc sur le Japon, est-ce que vous parlez de boules de geisha, etc. D'abord, il y a l'ouverture d'esprit de comprendre que notre sexualité, à nous, elle est basée quand même sur des fondements judéo-cathos. Effectivement, la sexualité au Japon ne s'est pas développée, n'a pas les mêmes, n'a pas la même vision. Et pour parler crûment, par exemple, le rapport à la masturbation n'est pas du tout le même, par exemple, en Inde, au Japon, en France. Et notamment la masturbation féminine. Après, attention. Moi-même, il y a des choses qui me choquent au Japon. Il y a des trucs, ça va pas pour moi. Vraiment pas. Et c'est vrai que... Et voilà, il y a des représentations de la femme et de l'enfant au Japon. C'est compliqué quand même, hein. C'est un petit peu compliqué. Et c'est pas un hasard si maintenant il commence à avoir des wagons dans les trains japonais réservés aux femmes pour éviter des formes de perversité. Eux, ils ont un vrai problème de culture masculine, d'appropriation du corps et de vision de la femme. Hein. C'est quand même une société ultra patriarcale, encore le Japon. Hein. Ultra. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Attention, je ne suis pas en train de dire que la France n'a pas des problèmes de patriarcal, on en a beaucoup. On n'a pas les mêmes. Donc, écoute, si Twitch me banne parce que j'utilise le mot masturbation, bah, qui me banne? Parce que justement, un des problèmes de notre société, c'est qu'on n'en parle peut-être pas assez. Voilà. L'ouverture d'esprit, c'est quand même de comprendre que des cultures ne sont pas les nôtres et les standards moraux ne sont pas forcément les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter comme tels, mais il faut comprendre que les nôtres ne sont pas forcément supérieurs ou dominants. Parce que là, on est dans une pensée occidentale qui a régné pendant un certain temps dans l'histoire, qui est dangereuse. Est-ce que je regarde le Discord? Tu veux dire le Discord? J'ai peu de temps pour vous lire sur le Discord. Ça m'arrive, j'essaye de lire un maximum le Discord. En fait, ce qu'il faut comprendre, Seven, c'est que une partie de mon temps que je vous consacre, c'est de lire les commentaires YouTube. Et ça devient dur, mais j'essaye vraiment de lire tous les commentaires. Je réponds pas à tous les commentaires, bien évidemment, j'aurais pas le temps, mais j'essaye de lire tous les commentaires sur la chaîne YouTube. Si je dois ajouter à ça que je dois lire tout ce que vous dites dans le Discord, j'y arriverai pas. C'est pour ça qu'on a des règles de modération qui peuvent vous paraître strictes, qu'on n'a pas le droit dans le Discord de mettre mon nom. Et ça, faites attention parce que ça, je n'accepte pas d'être pingué. Parce que il faut comprendre que je suis sans être une star, loin de là, hein. Bien loin de là. Mais je suis très, très sollicité. Et si je devais passer tout ce temps-là à lire, à répondre à tout le monde, à répondre aux mails, les mails, je vous le dis, n'envoyez pas un mail pour me poser une question. J'ai absolument pas le temps de répondre à ça. Sinon, je ferais plus de vidéos, en fait. Non, non, mais si je passe autant de temps à vous expliquer les choses, c'est parce que je comprends très bien que vous, vous ne voyez pas du tout comment ça se passe de notre côté. C'est nébuleux pour vous et c'est normal, ce n'est pas votre job. Donc c'est pour ça que je vous explique. En fait, je vais vous dire, il y a beaucoup de mes collègues youtubeurs, ils ne lisent pas les commentaires, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de lire les commentaires. Ils les laissent ouverts parce que sinon ils se prennent un backlash, ouais, t'as fermé les commentaires, mais ils n'ont pas le temps de les lire. Ça prend pas mal de temps, hein, de lire tous les commentaires d'une vidéo. Hein. Parce que vous, vous lisez votre commentaire et parfois deux, trois autres. Mais allez, allez, rien que hier soir, la vidéo est sortie à 17h. La vidéo est sortie à 17h. Faites, amusez-vous à lire tous les commentaires qui ont été publiés hier depuis 17h sur cette vidéo. Et chronométrez le temps que ça vous prend. C'est pour ça qu'ils font pas beaucoup d'enfants. Ah non, s'ils font pas beaucoup d'enfants, c'est qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'au Japon, il y a très peu d'infrastructures pour s'occuper des enfants, en fait. Alors, il y a des parcs d'attractions et tout ça, il y a tout un univers pour les enfants. Mais par exemple, Nounou, en fait, c'est compliqué et ça coûte cher et ils ont des temps de travail. C'est surtout pour ça qu'ils font pas beaucoup d'enfants, les Japonais. Après, je suis pas sociologue, je m'exprime, mais... Prochaine vidéo, une journée type de Jérôme. En vrai, on fera jamais ça, Seven, parce que chaque fois qu'on a parlé de nous, il y a très peu de gens qui regardent. On a fait nos plus gros flops en vue, c'est quand on a parlé de notre studio, comment on avait organisé notre studio. Quand on a parlé de nous, ça intéresse personne, en fait. Vous, ça vous intéresse peut-être, donc je le fais un peu en live, je vous décris la vie, mais j'y claquerai pas l'argent d'un tournage pour une vidéo YouTube, quoi. En fait, il y a une curiosité, mais elle ne se concrétise pas dans les vues. Sachant qu'en plus, nous, on n'est pas une chaîne où il y a des fans comme il peut y avoir avec des Inox ou des Michou ou des Squeezie. On n'a pas de fans. Vous nous aimez bien. Mais ce que je veux dire, je vous l'ai raconté, hein, quand je suis allé chez Webedia, il y a des mecs en embuscade pour voir la moindre arrivée de Michou, d'Inox, de Squeezie ou quoi que ce soit, quoi. On n'a pas... Enfin, j'espère. Pourtant, d'après Mitsugi, être parent à Tokyo, c'est limite paradisiaque. Bah, va voir aussi la vidéo de Louis-san sur la problématique des femmes au Japon. Je trouve qu'il en parle plutôt bien. Qui sont condamnées, finalement, à ne pas avoir de carrière parce qu'elles sont obligées de rester s'occuper des gosses parce qu'il n'y a pas vraiment de système de garde d'enfants. Il faudrait que j'en discute avec Mitsu, si on a l'occasion de se voir. J'ai pas vu ces vidéos, effectivement, sur... peut-être que le truc, c'est ce qu'ils disent tous. Le Japon change vite en ce moment, donc il y a peut-être des choses en train de changer. Donc c'est possible, quoi. Je ne regarde plus aucune vidéo sur le Japon, il y a tout et son contraire. Comme n'importe quel sujet sur YouTube, il faut choisir. Moi, il y a des YouTubeurs du Japon que j'aime pas du tout, et il y en a que j'aime beaucoup. Mais de toute façon, c'est impossible d'avoir vraiment... Mais c'est cool d'avoir comme ça des fenêtres sur des pays. Le Japon est un pays fascinant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à nous. Mais c'est pour ça que le contenu Japon, honnêtement, le contenu Japon, ça cartonne. Le contenu Corée-Japon, voilà, des Français qui vivent en Corée et au Japon et qui font des vidéos, ça fait des vues beaucoup plus que la tech, par exemple. On est à la limite du lifestyle, hein, en termes de vues. Est-ce que je vais faire des lives à Ici Japon ? J'ai pas demandé à faire des lives chez Ici Japon. Je crois que Tev sera pas au Japon en plus quand j'y suis. Je sais pas. Pour rien vous cacher, on s'est envoyé des messages avec Mitsu. On va voir. On va voir. Il est très occupé par la télé japonaise en ce moment, Mitsu. Si j'ai l'opportunité de faire quelque chose avec lui, je le ferai. Mais voilà, moi, je suis pas du genre à arriver à mobiliser tout le monde, quoi. On verra. Mais ouais, Mitsu, on se connaît. Enfin, c'était surtout Guillaume et Mitsu qui se connaissaient bien. Moi, je l'ai raté, Mitsu, la dernière fois à Paris. On devait se voir et on s'est raté. Donc là, je lui ai envoyé un WhatsApp et je lui ai dit, écoute, je viens au Japon. Si on peut se voir, c'est cool, quoi. Louis ne sera pas au Japon. Louis, je le connais aussi. Louis ne sera pas au Japon quand j'y suis. Est-ce que je parle un peu le japonais ? Complètement fluent en japonais. Complètement. Nihongo. Attends, Nihongo, c'est bien le japonais ? Nihongo. C'est ça ? Nihonji, c'est japonais, le japonais. Et Nihongo, c'est la langue japonaise. C'est bon ? Je suis bon, baron ? Non, mais je sais tout dire. Ri, Gohan. O, Mizu. Sushi, Sushi. Je suis à fond. Je suis à fond, là. Les haches aspirées, ouais, ils aspirent des trucs, hein, des nouilles et des haches. Hein. Ah, l'horrible bonhomme. Ouais, c'est les premières leçons du Duolingo. Je pense que tous ceux qui ont essayé le japonais sur Duolingo, c'est bon. Hein. Le thé vert, le riz, les sushis, le ramen et le curry, on sait dire. Ouais, je sais, Nignon, je lui ai toujours pas écrit. Le truc, il faut comprendre, parce que moi, je me suis souvent fait piéger. Tu donnes rendez-vous à des gens, et du coup, tu peux plus rien faire. Parce que tu as trop de rendez-vous par-ci, par-là. Je vais improviser ça, peut-être contacter un peu au dernier moment, sans me mettre de pression, sans mettre de pression. Est-ce que tu es dispo ? On se fait un truc, t'es pas dispo, c'est pas grave. Si je commence à me dire, je vais faire une vidéo avec un tel, une vidéo avec un tel, on se donne des rendez-vous, machin et tout, je vais être coincé, en fait. Et ça, j'aime pas. On m'a dit que les Japonais étaient obsédés par les emballages plastiques, tout semble emballé. Mitsu a bien répondu à ça. Selon les statistiques, les Japonais n'emballent pas tant que ça. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont des règles d'hygiène alimentaire qui sont très strictes. Un fruit ne peut pas être nu, même une banane. C'est peut-être des règles un peu débiles, mais c'est des règles alimentaires qu'ils ont. Donc, ce n'est pas eux qui sont obsédés, c'est qu'ils ont des règlements alimentaires qui sont extrêmement stricts sur l'hygiène. Mais en vrai, je crois que les Français consomment plus de plastique que les Japonais. C'est les magasins qui suremballent, ouais. Mais statistiquement, sur la consommation de plastique, je crois que Mitsu avait justement montré un tableau. Les Français utilisent plus de plastique, malgré qu'on ait plus de sacs en plastique et tout, que les Japonais. À clair, la baisse du yen, le budget... alors, le billet d'avion, il n'a pas vraiment baissé. Le logement, on n'a vraiment pas... Je vous garantis, on ne va pas vous faire rêver avec les logements. Hein. Comptez pas sur moi pour faire le contenu Instagrammable. Regardez la vue incroyable que j'ai dans ma chambre de 135 mètres carrés. Non, on est dans des chambres de 10 mètres carrés. On n'est pas dans des capsules hôtels, parce que c'était juste pas possible, mais on est un cran au-dessus. Donc, même si le yen était haut, on n'a vraiment pas pris des trucs chers. Après, c'est clair, la bouffe au Japon, il y a toujours eu des trucs pas chers hein, au Japon. Mais oui, globalement, le yen bas, oui, ça allège un peu le budget. C'est pour ça, le 18 mm, c'est pour la partie Instagrammable. Regardez, je suis dans un endroit incroyable. Ah merde, j'ai tapé le mur. Regardez, je vais dans le salon. Ah non, ça, c'est les chiottes, en fait. Voilà. Dans ta boulangerie, ils mettent chaque croissant dans un sac individuel. Alors, je leur demande à chaque fois de les regrouper. Non, mais c'est clair. Bon, ça, de toute façon, tous les youtubeurs le disent. Le Japon doit progresser sur certaines habitudes. Mais vous savez, nous, moi, on m'aurait dit il y a 10 ans qu'en France, on n'utiliserait quasiment plus de sacs plastiques. J'aurais dit, on n'y arrivera jamais, hein. Ah ouais, le 100 mm, par contre, ça risque de pas être génial, ouais. Bon, c'est bon, j'ai le record du mug. Karina est arrivée, je l'ai entendu. Donc, j'ai le record du mug le plus long, bravo à tous. Merci l'équipe. Il fallait terminer en beauté. Ouais, non, mais je suis d'accord, les hôtels, on a des appâts, mais il n'y a que ça, Baron. Il n'y a que ça. Honnêtement, regarde les hôtels, appâts, il y a un problème de monopole hein, au Japon. Hein. Les hôtels appâts, ils sont partout, partout, partout. Hein. Il y a deux des hôtels qu'on prend dans... On n'a pas pris que des hôtels, hein, on a pris aussi des Airbnb et des trucs. Mais ouais, il y a énormément. Tu occupes les trois premières places. Je suis un champion quand même. Eh ben, merci à tous. Si c'est la chaîne de business hôtel la plus connue, il y a aussi Tokyo Inn, Toyoko Inn, d'accord. Oui, j'en ai vu aussi pas mal. Je vous fais des gros bisous. Hein. Alors, suivez-nous sur Instagram. Merci beaucoup à CPI Digital qui nous fait un feu d'artifice final. 10 abonnements communautaires offerts. Merci Brésande pour ton 49e mois d'abonnement. Merci Damien Boucher aussi, 46e mois d'abonnement. Merci Marie-Anne pour ton 34e mois d'abonnement. Merci à vous les derniers contributeurs. Le bouquet final, un grand, grand merci à toi, CIP Digital. Ceux qui habitent au Japon, que ce soit la région Osaka, Kyoto, Tokyo, suivez-nous en prio sur les réseaux sociaux. Si jamais on vous fait un coucou et qu'on ait une opportunité de vous rencontrer, on vous le dira sur les réseaux sociaux. Donc suivez-nous. Probablement sur X, je dirais, ouais, est-ce qu'il y a du monde pour venir boire un petit thé ? Peut-être, peut-être, je garantis rien. Je ne prends pas d'engagement. Les autres, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, TikTok. C'est là où je pense qu'on postera des trucs. Hein. Voilà, on postera des trucs sur notre voyage. Il y a des vidéos tournées au Japon qui sortiront pendant qu'on est au Japon. Donc, vous commencerez à voir des trucs. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah, tu connais Mitsu ? Ce serait l'occasion. Bah oui, cool. Bah, dis-lui, parce que je suis en contact avec lui. Ça serait l'occasion, Baron. Ça serait l'occasion. Je pense qu'à minima, on va au moins se voir une fois avec Mitsu, j'espère. À minima. On reprendra donc les mugs le 24 juin. Avec un bon décalage horaire, ça va être sympa. Que vous dire d'autre ? Bah, c'est tout. Allez voir la vidéo qui est sortie hier sur la chaîne. On a fait des vidéos en avance. Vous n'aurez peut-être pas autant de contenu que quand on est là, mais il va y avoir une continuité de contenu. Il y a des vidéos qu'on a déjà tournées, qui sont en cours de montage. Yanis reste en France, il va continuer du montage ici. Karina me rejoint au Japon, elle va faire aussi du montage et de la prod au Japon, hein, parce que c'est ma productrice et elle m'accompagne. C'est tout ce que je suis à vous dire. J'ai du mal à vous quitter hein, quand même. Hein. C'est dur pour moi aussi. Hein. Ça va être cool. Ça va être cool, mais c'est toujours dur un peu de vous quitter. Juin. 24 juin. J'ai dit 24 mai. Non, ça reprend le 24 juin. Moi, je pars 5 semaines, là, au Japon. Un petit coup de bouclier pour partir. Bah, allez, paf ! C'est bon, là, il dort. C'est bon, vous pouvez le sortir. Allez, coupe ou j'appelle Karina. Non, mais t'as raison. Allez, je coupe. On va faire un raid, bien évidemment. Petit raid. Où sont mes raids? Pourquoi j'ai pas mes raids? Ah, mais je me disais aussi, j'avais pas mis l'interface comme d'habitude. Alors, un petit raid chez qui? Un petit raid chez qui? Suivi. Ah, un petit raid chez Basti, il est venu nous faire un petit coucou. Allez, un petit raid chez Basti. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté du mois, on va dire. 24 juin. Allez, ciao tout le monde, je lance le raid. Yep. Et je vous dis bye bye.